C'est cool, les Bleus tombent pas sur le Brésil.
En même temps...
Attends, ils sont pas qualifiés les Brésiliens ?
Betclic souhaite la bienvenue à tous les parieurs, même ceux qu'on ne voit que tous les deux ans. Rendez-vous dès maintenant sur l'application Betclic pour profiter de tes bons plans et tente de débloquer un max de free bet en tournant la nouvelle roue des défis. Betclic, l'app officielle pour parier sur les Bleus. Sous réserve d'éligibilité, voire conditions sur le site, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After,
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Soyez les bienvenus dans Génération After, tous les soirs 20h-22h, en direct sur RMC à la radio, en direct sur YouTube, en direct vidéo, la chaîne de l'After, @after-foot, vous pouvez venir nous voir et commenter votre soirée foot. Si vous mettez YouTube, vous aurez l'occasion de voir la magnifique petite veste en velours de Sofiane Zouaoui. Salut Sofiane.
Salut à toutes, salut à tous. Eh oui, j'ai osé.
Ouais.
Je me suis fait caler à l'entrée d'ailleurs.
Ouais.
Mais vraiment de manière sérieuse, pendant 20 minutes j'attendais. Je pensais que c'était un souci de listing, en fait c'est ma gueule, je crois.
Non, c'est la veste. Sofiane du Winamax FC avec nous ce soir. Elton Mokolo est là également, salut Elton.
Salut Thibaut, salut à tous.
Tout roule.
Oh, écoute, tout va bien, on est prêt. Ouais, en fait, on cherchait le maillot de l'équipe de France 2012, on l'a pas trouvé, du coup, on s'est reporté sur ça.
Ouais, en mode, on dirait un zèbre un peu quand même.
Non,
c'est la marinière.
Marinière, c'est plus serré normalement les lignes, non?
Pas forcément.
Ça dépend.
C'est une marinière aérée, quoi.
Exactement, okay. Ouais, c'est de circonstance. Ouais.
Jimmy Brown est là également, salut Jimmy.
Bonsoir Thibaut, bonsoir à toutes et à tous.
Ça va?
Ça va et toi?
Bah ouais, ouais. Bon d'être là.
Super.
Sur cette émission avec vous, c'est génial.
After.
On est en direct jusqu'à 22h et dans un instant évidemment l'Euro, programme à la veille de ce quart de finale Portugal-France. On va vous donner les dernières infos compo, notamment avec Fabrice Hawkins. On va parler du Portugal bien évidemment. Va-t-on forcément assister à une purge? C'est notre débat dans quelques secondes. On vous attend au 32-16 pour venir participer au débat. Kylian Mbappé était en conférence de presse aujourd'hui. Une conférence de presse animée qui n'a pas plu à tout le monde. Mbappé a-t-il eu une attitude de capitaine aujourd'hui? On écoutera quelques morceaux et vous viendrez juger avec nous au 32-16. 21h, l'avis d'Elton sur l'autre quart de finale de demain, l'affiche Allemagne-Espagne. En une phrase, Elton.
Ce match demain, Allemagne-Espagne, doit être l'acte fondateur de la nouvelle génération.
Bam!
Waouh! Le sens du teasing, ouais, c'est efficace. Fort.
Mais laquelle? Espagnole?
Ah oui, ouais. La nouvelle génération, ouais, espagnole.
Ça pourrait être de l'autre côté aussi.
Ouais, non. Nouvelle génération espagnole.
D'accord.
C'est vrai que c'était pas précisé.
Merci. On est ensemble.
Et l'avis de Sofiane Zouaoui, 21h30, on va revenir à notre Ligue 1. D'ailleurs, c'était reprise de l'entraînement aujourd'hui pour l'OM. Avis tranché sur l'OM aujourd'hui?
Tout à fait. Aubameyang, enfin l'OM ne doit pas retenir coûte que coûte Aubameyang, en gros.
Et à 21h45, le quiz de l'After by Jérôme Thomas, où vous pourrez gagner un Bomber Shot, la marque iconique new-yorkaise, avec en plus le scratch After Foot qui va avec pour remporter votre Bombers Shot. Vous envoyez quiz par SMS au 732-16. À partir de 22h, ce sera l'After. Hola viva!
Eh ouais mon gars! Comment ça va Yarel? Ça va et toi?
Ça va Nico Villas?
Ouais, tu te fous pas de la gueule de mes fringues moi. J'ai pas le droit à ça.
Bah non mais toi c'est tous les jours. Sofiane c'est une fois de temps en temps.
Mais toi, on s'est pas laissé rentrer à l'entrée.
Mais vous me déstabiliserez pas, je me trouve terriblement sexy.
Mais tu l'es d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils t'ont pas laissé rentrer d'ailleurs. Je sais pas, je pose des questions.
Tu rappelles un ancien collègue à nous qui se trouve aussi terriblement sexy.
Ah, on l'embrasse Timothée Mémon bien sûr. Voilà, bien sûr.
Non, puis petit t-shirt jaune de Wolverhampton.
Ouais, de Wolves, ouais.
Mais en mode en plus Tour de France, très bien, on dirait pas.
Moi j'adore le jaune, tu le sais fort. C'est la couleur de tes dents, donc j'adore. Non mais mon dentiste est musulman, donc on va y aller.
Ça va.
Alors tu vois là, ça me vexe. Autant on peut vanner sur le travail, mais sur les chicots, c'est chiant.
Tu veux quoi, le programme de 22h ou pas?
Ouais, ça m'arrange.
Ouais, demain, il y a un petit quart de finale de Coupe d'Europe, il paraît. Mmh. Bah, Walid, il a pas du tout kiffé la conférence de presse de Kylian Mbappé. Avis tranché de Walid en mode vénère. Voilà, ça parle de Pogba, etc., de Griezmann. Il a pas kiffé Walid. Tiens, Jules Koundé face à Raphaël Lyon. Parce que c'est comme ça qu'on dit.
Lyon.
Koundé est-il devenu indispensable?
Ah, sur les prononciations.
Est-ce qu'il va étendre Lyon?
Non, attends, parce que je m'en fous. Ouais. Sur les prononciations.
Ouais.
Il y a rien de pire. Ouais. Coup de gueule, avis tranché, que les commentateurs français qui commentent le Portugal et qui donc se mettent en mode. Oui, non, mais toi t'as le droit, mais en mode Rafael Leão, João Félix, et qui vont arriver sur le côté gauche en disant Nuno Mendes.
Ouais, alors ça par contre, je suis
horrible
avec toi, frérot.
Horrible.
Oui, là ils se lèvent juste et ils sont en train de s'embrasser. Ceux qui sont.
Ça m'en va. Pas terrible.
ceux qui sont pas sur
Il y aura Johan Crochet aussi qui va nous parler de Xavi Simons et Gakpo qui est l'un des meilleurs buteurs de l'Euro.
Rakpo.
Ah oui, Rakpo, Rakpo.
Rakpo, Michel Strom d'ailleurs.
Voilà, j'ai, voilà. Et Johan Crochetto, parce qu'il est italien, vous le savez. Et puis, info mercato également autour de l'OM, info mercato tout court. Et on va faire un petit truc sympa, petite dédicace à la Ligue Antenne. 21h45, le 32-16 est ouvert. Venez nous dire comment vous sentez ce match.
J'imagine du kit de quoi vous avez peur. Parce que 21h45 sera le quiz de la Terre.
23, putain, j'ai mis
23-45.
Ouais, mais moi, je bouge tous les trous, après, je me trompe. Voilà. Donc, 23-45.
C'est quoi le rapport avec la Ligue Antenne?
Non, c'est 22-45 même.
Ah, 22-45.
C'est la première heure,
ouais. Wow.
C'est que sur mode, les gens ils appellent, ils parlent de ce qu'ils veulent, quoi.
Ah oui,
c'est même s'ils veulent parler de Kinder Bueno, hein,
c'est pas ça. Ah, ok, c'est ça.
Non, c'est des émissions pas taffées, c'est le début d'été.
Ouais, ouais, je m'attendais à ça, mais.
Ouais, ça passe.
Ce sera tout?
Oui, pas trop vite.
Voilà, merci Nicolas.
Au revoir, à tout de suite.
D'ailleurs, tu vas rester, parce que dans un instant, on va parler de ce France-Portugal avec toi, le côté portugais, le côté Rafael.
Tu tiens pas trop
Léon. Et Nuno Gomes. Nuno Mendes.
Nuno.
Tous les Nuno.
Nuno.
Il est 20h06. Vous êtes sur RMC. Merci beaucoup. Juste avant de partir sur notre débat, je voulais vous dire que cette semaine, RMC vous envoie encore en Allemagne pour assister aux demi-finales de cet Euro. On vous propose de vivre l'expérience RMC. Le voyage à Munich pour la demi-finale, le vol plus l'hôtel. La rencontre avec les équipes d'RMC avant le match. Et bien sûr, vos deux places pour la demi-finale le 9 juillet à 21h. Et puisqu'on fait les choses bien, ce sera la demi-finale de l'équipe de France. Chambre.
Il y a beaucoup de... J'aime bien vos références musulmanes, ça fait plaisir. Vraiment. Je me sens assez respecté.
Ouais,
Jusqu'à dimanche,
ouais. T'inquiète, hein. Les rêves, c'est jusqu'à dimanche aussi. Après. Ouais. Dès que vous entendez ça... Ce petit coq vient de chez nous. Vous aurez 5 minutes pour envoyer euros par SMS au 732-16 euros. Au 732-16, aux places pour la demi-finale de l'Euro, se gagne uniquement sur RMC. Direction l'Allemagne, justement, direction Hambourg, où aura lieu demain ce quart de finale entre le Portugal et la France. Affiche magnifique, enjeu capital, mais inquiétude maximale. Ce match si excitant sur le papier va-t-il nous décevoir, comme souvent en ce moment avec les Bleus? 32-16 si vous voulez en débattre. Et on va avoir les dernières infos ce soir avec Fabrice Hawkins en direct d'Hambourg. Salut Fabrice.
Salut messieurs.
Salut Fabrice.
Salut Fabrice.
Quelles sont les dernières indiscrétions compo, Fabrice?
Bon, déjà, il n'y a pas de blessés, ça c'est la bonne nouvelle. On a assisté tout à l'heure au premier quart d'heure ouvert au public, cette séance d'entraînement. Ils étaient tous là, les 25. Alors ensuite, on a dû sortir, nous les journalistes. Et donc la séance s'est déroulée à huis clos. Pour la petite histoire, depuis quelques séances maintenant, les veilles de match sont très très surveillées par le service de sécurité. C'est-à-dire que c'est de plus en plus compliqué de savoir ce qui se passe dans ces entraînements-là qui sont fermés aux médias. Mais ce qu'on peut vous dire ce soir, c'est qu'il y a une véritable réflexion de la part du staff entre... deux joueurs, Ousmane Dembélé et Eduardo Camavinga, pour savoir qui va remplacer Adrien Rabiot. Alors évidemment, ça peut encore évoluer, mais on partirait sur le même système que celui adopté par les Bleus contre la Belgique, le 4-3-3, avec donc peut-être soit Eduardo Camavinga pour remplacer poste pour poste Adrien Rabiot au milieu du terrain avec Aurélien Tchouaméni et N'Golo Kanté, ou alors Ousmane Dembélé qui entrerait dans ce 11 à droite. Il irait jouer le duel avec Nuno Mendes, le duel 100% parisien, et c'est Antoine Griezmann qui reculerait. Voilà les deux options ce soir. 4-3-3 évidemment, avec pour le reste en défense Jules Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, et dans les buts évidemment Mike Maignan. Et puis il y a une autre interrogation, c'est qui va jouer en pointe. Marcus Thuram, quelque peu décevant lors de ses dernières sorties. Randal Kolo Muani postule pour commencer, et puis Kylian Mbappé qui devrait être laissé dans sa position préférentielle dans le couloir gauche.
Merci beaucoup Fabrice. Bonne soirée. Toutes les infos à retrouver sur RMC bien sûr, également sur rmcsport.fr. Nico Villas est resté. On se dirige vers quoi pour le Portugal, Nico? C'est quoi la tendance? Est-ce qu'on reste sur la même équipe qui a galéré contre la Slovénie en 8e?
Oui, alors après, enfin, les interrogations, il n'y en a pas 50. C'est est-ce qu'il va changer son milieu de terrain? A priori non, il n'y a pas forcément de raison. Est-ce que Ronaldo va être titulaire? A priori oui, puisque il passe son temps à le défendre et les joueurs l'ont défendu également, et que Roberto Martinez a une confiance terrible en lui. Souvent là où il y a le plus de débats et d'incertitudes, c'est est-ce que Rafael Leão Il va jouer oui ou non. Moi, je pense qu'il sera titulaire. Mais et puis à droite, est-ce que Bernardo. Et puis, enfin, si, la question de base aussi, c'est quelle animation. Alors, a priori, en ce moment, c'est plus le 4-3-3. Est-ce qu'il revient à une vraie fausse défense à 3 avec un Nuno Mendes qui avait joué fausse axiale lors du premier match ou pas? Ça n'avait pas hyper bien fonctionné en réalité. Mais il n'y a pas tant d'incertitude que ça, finalement. Il y avait Bernardo Silva aujourd'hui en conf de presse. Il jouera, ce qui n'est pas une surprise en soi. A priori, dans cette espèce de faux poste délié également. Alors là, en revanche, il n'y a pas de blessé, il n'y a pas de suspendu chez les Portugais. Voilà, les Français n'ont pas. En équipe de France, il n'y a pas Rabiot. Les Portugais, ils ont a priori tout le monde. Donc,
même Jean-Félix.
Et il va garder Cancelo face à Mbappé.
Cancelo, oui, absolument.
Jean-Cancelo va jouer face à Mbappé.
Je pense que s'il y aura. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi. Il pourrait se dire, je vais la jouer plus défensive dans un couloir et mettre Dalot plutôt que Cancelo. A priori, je pense qu'il mettra Cancelo. Il a quand même été pas mal, Cancelo, sur les derniers matchs. Plus offensivement que défensivement, mais on va voir. Je sais pas. Il a toujours ses problèmes de riche, j'ai envie de te dire, Martinez.
Oui, problème de riche, mais c'est pas pour autant qu'il utilise ce qu'il a sur le banc.
C'est pas pourtant que c'est brillant, oui, ça c'est sûr.
Exactement. Justement, est-ce qu'on va forcément assister à une purge entre cette équipe de France et ce Portugal? 32-16, s'il veut venir en débattre. Vous en pensez quoi, les gars?
Non, je suis pas forcément persuadé. Ça peut être conditionné par le premier but, parce que, en effet, quand on regarde l'équipe de France et quand on regarde le Portugal, on a deux équipes qui ont été souvent à l'initiative, mais qui ont déçu. Mais là, pour le coup, faut aussi mettre en contexte le fait que t'as affronté des équipes qui étaient supposées être inférieures sur le papier et qui ont refusé le jeu. L'exemple le plus criant, c'était la Belgique. Et je te parle de la Belgique. Et donc, par rapport à ça, l'équipe de France a dû s'inventer une vie, entre guillemets, face à un bloc bas, proposer des solutions, et ils ont pas été forcément en réussite. Même chose pour le Portugal contre la Slovénie. Là, tu es sur un cas où il y a deux favoris au titre qui se rencontrent. Donc moi, je ne pense pas qu'il y a une équipe, que ce soit le Portugal, que ce soit l'équipe de France, qui va arriver en se disant on va être dans une soumission, on va se dire on va passer tout notre match à vivre en bloc bas. Ça, je ne pense pas. Et donc, par rapport à ça, suivant ce qui va se passer, notamment au niveau du contexte, au niveau du premier but qui pourrait être un élément très important, à l'image de ce qu'on a vu pour la Turquie et l'Autriche, eh ben bon, on pourra assister à un match ouvert. Parce que quand tu regardes la réalité des France-Portugal en compétition, moi, ce n'est pas le premier mot qui me vient, purge.
Ouais, c'est pas parce que les autres ont été, tu vois, enfin, plutôt, on va dire, haletant que celui-là va l'être. Et puis, 2016, la finale, elle était pas extraordinaire.
Il est haletant, oui.
Et en soi, elle était pas extraordinaire non plus. Mais, enfin, en vrai, c'est impossible de répondre à cette question. On sait pas trop ce qui va se passer. Moi, la seule chose, et là où je te rejoins, Elton, c'est sûr que si t'as un but d'entrée, ça débloque le truc, ça obligera l'une des deux équipes à plus s'attaquer.
Mais est-ce qu'on est sûr, comme dit Elton, que le Portugal va pas faire comme la Belgique ou comme les Pays-Bas?
Ça dépend de ça, en fait.
Bah ouais, c'est ça.
Est-ce que Martinez va se suicider comme Tedesco s'est suicidé?
Non, moi je pense pas.
Après, vous parlez de la Belgique comme si elle avait pas eu les meilleures occasions sur la partie.
Non, mais après, la globalité de la rencontre.
D'accord, ils sont en mode soumission. D'ailleurs, avant le match, on en avait parlé ici la semaine dernière. On avait dit que j'étais content de prendre la Belgique par rapport à la Turquie, non pas par arrogance, mais parce que j'étais sûr et certain qu'ils allaient dans une forme de complexe d'infériorité.
Je m'en souviens, mais tu l'avais dit avec un petit ton arrogant quand même.
Peu arrogant, mais c'est moi. C'est pas
c'était
les Français.
Avant les vestes
donc j'étais pas surpris par ça. Mais attention sur l'analyse du match de la Belgique. Les occasions, ils les ont. De Bruyne, il en a une. Lukaku, il en a une également. Je veux dire, on n'a pas surdominé non plus. Et eux,
c'est pas la question. C'est juste que c'était une purge.
C'était une purge, bien sûr.
C'est ça qu'on dit.
Mais moi, si je devais me positionner, si on part, parce que Fabrice nous a donné deux options qui, pour moi, vont définir le rapport de force de l'équipe de France face au Portugal. Si t'es dans un 11 un peu identique par rapport à celui de la Belgique, je pense qu'on se dirige vers une purge. Parce que t'es dans un 11 négatif du côté de l'équipe de France pour l'adversaire, c'est très dur de contourner ce bloc-là. T'es dans un 11 négatif aussi parce que ce que t'as apporté comme réponse, le France-Belgique, sont pour moi des fausses réponses. Parce que t'as pas été meilleur offensivement du tout. Parce que Koundé, il est pas bon parce que Griezmann est sur le côté. Koundé, il est bon parce qu'il est bon depuis 2024. T'as pas été beaucoup plus solide que ça. C'était un match un petit peu terne. Mais je trouve qu'il y a des fausses réponses qui ont été apportées à ce match-là. Thuram, je vois pas son utilité non plus. Et du côté du Portugal, tu connais l'équipe, mais tu vas avoir une grosse densité au milieu de terrain. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, je sais pas s'il y aura Palinha également. Bref, tu auras beaucoup de monde au milieu. Et donc, je pense que ça va favoriser un match terne et où ça va se débloquer, soit en prolongation, soit en tir au but.
Sauf si tu as un but qui obligera les deux équipes à jouer. Moi, le seul truc qui me fait un peu flipper, c'est pour moi, le Portugal, de par c'est l'équipe qui a le plus de possession depuis le début de l'Euro en moyenne par match, ouais, etc. De par sa façon de jouer, c'est typiquement le genre d'adversaire que les Français adorent.
Et oui.
Parce que tu laisses le ballon. Alors tu joues en contre. Après, tout à l'heure, on avait le débat dans la rédac. Mais est-ce que l'équipe de France a vraiment les joueurs pour jouer en profondeur et jouer en contre? On en reparlera tout à l'heure. Mais
ouais, c'est
la
ça,
question
c'est
a été posée à Mbappé. Pourquoi t'es moins bon dans la profondeur? Ça lui a été posé en conf de presse tout à l'heure. Mais c'est vrai que sur le papier, tu dis c'est un adversaire qui peut plaire aux Bleus. Mais là où je te rejoins aussi, Sofiane, c'est que si la France la joue bloc bas, que les Portugais jouent à la baballe et qu'ils n'arrivent pas à contourner les blocs, il y a moyen de se faire chier. Oui.
Il est 20h14, on va faire une première pause et on continue le débat dans Génération After. Va-t-on assister forcément à une purge quart de finale de l'Euro France-Portugal demain 32-16? Il y a Landry qui est déjà là, n'hésitez pas à venir participer au débat. Génération After revient dans un instant avec Sofiane Zouaoui, Elton Mokolo, Jimmy Brown et Nico Villas.
C'est cool, les Bleus tombent pas sur le Brésil.
En même temps...
Attends, ils sont pas qualifiés les Brésiliens?
Betclic souhaite la bienvenue à tous les parieurs, même ceux qu'on ne voit que tous les deux ans. Rendez-vous dès maintenant sur l'application Betclic pour profiter de tes bons plans et tente de débloquer un max de free bet en tournant la nouvelle roue des défis. Betclic, l'app officielle pour parier sur les Bleus. Sous réserve d'éligibilité, voire conditions sur le site, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
Nous sommes jeudi le 4 juillet à 20h18. Merci d'écouter RMC, de nous regarder sur YouTube, de commenter votre soirée foot sur la chaîne de l'After. Nico Villa, c'est là. Sofiane Zouaoui, Elton Mokolo, Jimmy Brown. Et c'est qui le maillot jaune du Tour de France en ce moment-là? Parce que on se
Pogacar,
c'est Pogacar, c'est bien Pogacar.
J'en sais rien. Mais. Ça, faut écouter, bravo, les gars. Super. Faut écouter la radio digitale.
Ouais. RMC 100% route disponible. Ouais.
100% route, ça s'appelle.
Ouais. Ah ouais, donc c'est bien Pogacar, en mode Pogacar. Retour au foot. Donc avec ce quart de finale qui nous attend, ce Portugal-France, on reviendra d'ici quelques minutes sur la conférence de presse de Kylian Mbappé. A-t-il eu une attitude de capitaine? On en débattra avec vous tous au 32-16. Mais d'abord, ce match en lui-même, va-t-on assister forcément à une purge demain? Ce France-Portugal, Didier Deschamps également était en conférence de presse. Écoutez ce qu'il a dit sur le jeu du Portugal et ces Portugais qui ont les moyens d'avoir le ballon beaucoup plus que la France.
Cette équipe du Portugal a cette capacité-là, évidemment qu'elle préfère attaquer que défendre. Donc ça sera un rapport de force. Est-ce que le Portugal aura cette attitude-là demain? Si vous avez des infos, après il y a plusieurs possibilités. C'est une nouvelle équation avec une équipe du Portugal qui peut jouer dans différents systèmes. Je connais bien Roberto Martinez, que j'apprécie. On cherchera évidemment d'avoir le plus de maîtrise possible pour imposer à l'adversaire.
La maîtrise de Didier Deschamps.
Juste pour rebondir sur le débat compo, ça donne envie quand même de voir Dembélé à droite. Quand tu l'entends parler, t'as l'impression que c'est quand même l'adversaire idéal, un adversaire qui va avoir le ballon, qui va attaquer, Barcola, que tu peux piquer en contre. Dembélé ou Barcola ou pas Griezmann en tout cas. Non. Avoir Griezmann qui rentre dans cette ligne de 3 du milieu, une équipe un peu joueuse qui peut sortir vite en contre.
Le problème,
tu dis qu'il y a tout pour leur faire mal.
Le problème, c'est aussi de se demander est-ce qu'il est capable de, parce que Griezmann, le souci c'est au milieu de terrain, est-ce qu'il est capable d'avoir ce rayonnement-là? J'ai l'impression qu'il met Griezmann un petit peu pour lui donner un nouveau rôle et lui dire t'inquiète, c'est bien ce que tu fais dans la compensation, etc. T'es plus capable, d'ailleurs il l'a dit en conférence de presse, t'es plus capable de faire mal techniquement comme avant parce qu'en ce moment t'es dans un trou. Donc je te mets à gauche parce qu'il faut, je te mets à droite parce qu'il faut te mettre. Mais est-ce que si tu mets Dembélé ou Barcola à droite, est-ce que tu penses vraiment que Griezmann sera impactant au milieu de terrain dans cette forme-là? C'est ça aussi la question. Il y a une question de statut. J'ai l'impression qu'il choisit pas.
Et
aussi,
pour moi, c'est un point qui est très important parce qu'on l'avait vu au Qatar. Griezmann avait été fortement exposé dans le jeu sans ballon où il pressait dans l'axe, ce qui lui obligeait Rabiot à presser sur le côté gauche. Là, à partir du moment où Rabiot n'est pas là, ça redistribue les cartes. Et en gros, Griezmann, avec 2 ans de plus, et davantage exposé. Donc moi, je suis pas persuadé que cette idée de Griezmann axial, notamment sans ballon, ce soit la meilleure des choses. Mmh. Alors que, à côté de ça, t'as le Portugal et notamment son milieu de terrain où il y a une forte concentration de joueurs et une forte activité.
Mais donc pour moi, rejoins Elton, après t'es en quart de finale de l'Euro, si à un moment donné les attaquants doivent faire des efforts, etc., c'est demain ou jamais. Mbappé demain, ouais, après, il va devoir faire plus, beaucoup plus dans cet aspect-là.
Après, à partir des Pays-Bas, Deschamps a emprunté une voie, c'est la voie de la solidité avec ce milieu de terrain renforcé qui va donner satisfaction parce que le maître mot, c'est dominer.
Bon, bah, on va avoir une purge demain.
Non, je dis pas ça, mais en gros, je ne vois pas Deschamps arriver sur un match contre le Portugal et se dire que face à une équipe qui base son jeu sur son milieu de terrain, et ben moi je vais m'affaiblir en mettant momentanément Griezmann dans cette zone-là.
Mais justement, le côté équipe de France, a priori on n'aurait pas énormément de surprises, ça serait à la marge un nom ou deux, ce que nous a donné Fabrice, mais est-ce que Nico, le Portugal peut, tu penses que Roberto Martinez peut se renier totalement en ayant peur de l'équipe de France, non, comme on l'a vu
pour d'autres équipes ? Il y a un élément qu'on n'a pas évoqué là, et c'est que Deschamps, au moment, dans le petit son qu'on a entendu, il fait une petite dédicace à Roberto Martinez. Il faut savoir que depuis la défaite en 2018, le fameux seum qui est né en 2018, Roberto Martinez, c'est l'incarnation de ça. Et toutes les déclarations que Roberto Martinez a eues depuis 2018, ça a toujours été un espèce de « je t'aime moi non plus » entre les deux entraîneurs. Et Roberto Martinez a dit 2 ans après, quand il a affronté avec la Belgique l'équipe de France une nouvelle fois, en disant « on a retenu la leçon de 2018, les Français n'ont pas bien joué, mais ils ont eu raison parce qu'ils ont gagné et qu'ils sont allés au bout. Et puis moi, je les comprends, parce que 2 ans avant, ils s'étaient fait sortir en finale de l'Euro et ils ont retenu la leçon et c'était défensif. » Si tu veux, il y a cette espèce de concours d'ego entre les deux, et aujourd'hui celui qui a envie de surpasser l'autre, c'est Martinez. Ouais. Martinez, je suis persuadé.
Parce que tu me dis, c'est-à-dire qu'il peut faire, il peut tenter.
Il a un complexe d'infériorité, moi je pense, par rapport à Deschamps, parce qu'il a jamais gagné. Il a une génération en or en Belgique. Aujourd'hui, il est avec le Portugal. Il voudra pas se planter 2 fois. Moi, je pense que demain, Martinez ne voudra pas qu'on lui reproche le fait de pas avoir fait ce qu'il avait pas fait avec la Belgique en 2018 notamment. Ce qu'il avait pas fait 2 ans après non plus avec la Belgique face à l'équipe de France. Je pense que demain, il devra perdre, mais avec vraiment ses convictions, à savoir, même s'il dit qu'il a pas de référence ultime, il a été biberonné à Cruyff, comme beaucoup.
Donc, etc. Jouer, ça veut dire qu'il va voilà. vouloir
mais
jouer.
Je suis vraiment persuadé de ça, parce que moi,
il a pas les joueurs pour laisser le ballon à l'équipe.
Non, mais moi, j'ai le sentiment que sur ce début d'Euro, c'est davantage le Portugal de Palinha, je le prononce bien?
Ah ouais, c'est
le Portugal de Pepe plutôt que Portugal de Cristiano.
Dommage, c'est Pepe.
Ouais, voilà,
je vais y aller moi.
Ouais. Moi, c'est pareil.
Sur le truc le plus simple.
Non, on y va tous.
C'est davantage le Portugal de Palinha, de Pep plutôt que de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes. Manière de dire.
Pour moi, c'est
davantage
le Portugal de Vitinha, c'est le Portugal de. Tu vois.
Enfin, moi, manière de dire, c'est davantage dans la solidité que Portugal. En fait, ils ont quand même fait mal aux adversaires.
Tu vois. Enfin, moi, je les trouve beaucoup plus variés que nous sur le techniquement, tactiquement. Je suis désolé.
Oui, attends, sérieusement,
oui, mais ils ont le même problème que nous pour faire briller leurs offensifs. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo.
Je suis d'accord.
Non, mais c'est vrai, c'est un euro
de
moyenne.
On va pas faire un débat sur Cristiano Ronaldo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais Cristiano Ronaldo, à mon avis, on est un petit peu floué par tout ce qu'il fait sur coup de pied arrêté, notamment tout ce qu'il veut prendre sur coup de pied arrêté, sur même excentré, même de loin, etc.
Le dernier match,
mais attention, dans le jeu, c'est pas un joueur négatif. J'ai employé l'expression tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il le laisse 120 minutes et ça, c'est totalement dingue physiquement. Mais moi, je trouve que c'est un joueur qui est mobile, qui bouge beaucoup, et j'avais pas dit ça tout le temps de Cristiano Ronaldo sur ses dernières apparitions avec le Portugal. Je trouve sincèrement qu'il est beaucoup plus intégré au collectif que de l'autre côté Mbappé par exemple ou Thuram.
Mais je crois qu'il court plus que Mbappé d'ailleurs en kilomètres par match.
D'ailleurs, c'est le joueur qui a le plus tiré à l'Euro et qui a pas marqué. Mais
et attention, parce que là sur la variable technique, moi je pense que le Portugal a un plafond qu'ils n'ont pas encore atteint. Un joueur très important et moi que j'aime beaucoup, qui est Bruno Fernandes, même s'il est irrégulier, n'a pas commencé son Euro. Si demain il se met dans de bonnes conditions, je pense que techniquement, ils ont un meilleur milieu que nous. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Mais puisqu'on parle de la bataille au milieu de terrain, moi, je les attaquerai sur les côtés aussi. Mais si t'as sur les côtés un joueur comme Mbappé qui se contente de recevoir le ballon dans les pieds et de se réaxer, et de l'autre Griezmann qui ne sert absolument à rien sur le côté et que notre principale menace est Koundé, ils ont gagné.
Mais tu vois, juste pour revenir là-dessus, là où je te rejoins, c'est que techniquement, pour moi, le Portugal est plus doté, notamment au milieu de terrain, que la France. En revanche, côté équipe de France, il y a plus de garanties, de certitudes tactiques que ne l'a le Portugal. C'est-à-dire que défensivement, et pour pas tomber dans le cliché du Deschamps fait du défensif, pour moi, l'équipe de France est plus stable, plus a plus de garanties, plus d'habitude aussi. Deschamps est là depuis plus de 10 ans. Martinez est là depuis 10 mois. Il y a plus de garanties à ce niveau-là, mais techniquement le Portugal est au-delà. Les deux équipes ont finalement un jeu un peu chiant toutes les deux depuis le début de l'Euro, etc. Finalement quelque part c'est une confrontation de style. C'est-à-dire t'as le côté Deschamps où on la joue très tactique, très pragmatique, même si j'aime pas trop ce mot-là, et le côté Martinez qui est plus dans le côté technique. Et puis finalement, enfin il y a plus de variété tactique. T'as raison, mais c'est pas des garanties. Il fait des tests en plein Euro et tout, ça tient pas la route.
Portugal-France, c'est demain, 21h, va-t-on assister forcément à une purge? Le 32-16, Landry avec nous dans un instant, c'est Génération After, on revient tout de suite avec Jimmy Brown, Elton Mokolo, Sofiane Zouaoui et Nico Villas. À tout de suite.
Bravo.
RMC jusqu'à 22h, Génération After,
Thibaut Giangrande.
Avec Sofiane Zouaoui, Elton Mokolo, Jimmy Brown et Nico Villas, ce soir à la veille de notre Portugal-France quart de finale de l'Euro, toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After. Mbappé à suivre, il était en conférence de presse, a-t-il eu une attitude de capitaine en conf? On l'écoutera et on en débattra avec vous au 32-16 sur YouTube. Hippo Sarma écrit, il va y avoir un but contre son camp demain, possible, c'est vrai que la cote ne doit pas être très élevée. Tiens, juste avant, Nico, je voudrais savoir, comment tu vas regarder ce match demain soir, ça m'intéresse.
À la télé,
connard. Mais dans quel non, alors attention.
Dans quel fauteuil?
On dit pas quoi.
On l'a acheté à comment ça s'appelle, Bobo Chic à Paris.
Très bien.
Voilà, si tu veux savoir le canapé. Ouais, c'est pas mal. Non, mais il y avait une petite promo sympa. J'ai vendu le poltronnet sofa, si tu veux tout savoir.
Je refuse rien.
Ce qui rentrait pas dans la nouvelle maison. Et du coup,
Maison et tout.
Ouais. On a pris. D'ailleurs, je vends toujours mon appartement à la Selle Saint-Cloud. Hein. Donc, 88 mètres carrés.
Ça marche pour toi, cousin. Voilà. Non, mais apparemment.
Tu sais qu'il y a un mec qui m'a envoyé un message pour de vrai pour l'appart.
Ouais.
Sur les réseaux. Ouais, c'est génial ça.
Et alors, il a visité
Non, mais non.
Merci pour l'anecdote.
Voilà.
Mais sinon, tu le regardes comment le match?
Non, je le regarde chez moi, mais j'éteins tout, vous me casse pas.
Il est déjà chaud,
là. Pas sur les réseaux.
Vous le savez, moi, ça me rend fou ce genre de truc.
Ah oui, attends, il a raison, Elton, tu vas pas tweeter pendant 2 heures, toi? Toi?
Ah, parce que t'as été actif.
Si tu vas tweeter quand même.
Ouais, si je veux, en fait,
Landry est là avec nous, autre française. Quelle violence. Salut, Landry.
Salut
Landry.
La team. Salut
Landry. Merci d'être là. Pardon pour la petite attente, Landry. Est-ce que ce match, ce Portugal-France, ça sera forcément une purge, à ton avis?
Alors, écoutez, les gars, moi, j'ai plutôt une nuancée par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense que ce match, il va ressembler assez fortement à la Coupe du Monde 2018, au France-Argentine. Deux équipes en perte de confiance. Et, je pense. Deux équipes en perte de confiance qui cherchent leur repère. Et finalement, il va y avoir du déchet technique, je pense. Mais il va y avoir aussi pas mal d'ouverture. On voit quand même que c'est les Portugais ont une équipe assez offensive avec une Nuno Mendes notamment à gauche et Cancelo à droite qui vont laisser des espaces dans leur dos et moi je pense bien qu'on va prendre ces espaces-là en contre et on va pouvoir justement amener un peu de virtuosité dans ce match et une fois qu'on aura amené ça, qu'on aura marqué le premier but, les Portugais vont encore plus se découvrir et je pense qu'on aura justement encore plus l'occasion de mettre de la vitesse et de la profondeur.
Landry, j'aime bien ton scénario, mais si jamais ce premier but dont tu parles, il vient pas, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Bah là, on va partir plutôt sur un France-Belgique 2018.
c'est ça, ce qui me semblait.
France derrière et on attend l'ouverture. Je pense que ça va se faire comme ça. Ça va être deux des scénarios possibles, c'est ça.
Ouais, bah,
et
après, c'est les deux seuls, quoi. T'es gentil.
Ouais, c'est ça. Et après, entrée de Giroud à la 75e, but de la tête, on n'en parle plus. C'est fini, on met la baraka et puis c'est fini.
Ouais, j'y crois peu, moi.
Je crois que toi, tu veux voir quelqu'un titulaire en pointe qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de l'Euro.
Kendra Lus.
Exactement. Moi, je suis un grand fan de Giroud. Alors, vraiment un grand fan. Je pense qu'il a été mis trop de côté sur cette compète, mais en tout cas pour l'instant. Certes, il est en perte de vitesse. Hein, on sent que physiquement, il pêche un peu. Mais je pense qu'il peut encore peser sur une défense et le mettre en tout cas ça pourrait permettre voilà d'attirer certains défenseurs et de laisser plus d'espace à Mbappé ou à Griezmann éventuellement et voilà enfin moi en tout cas je vois comme ça et puis ça peut pas être pire que Thuram actuellement quoi.
Moi Landry j'adore Giroud comme toi mais sur le match de demain j'aimerais bien voir Colomouani justement parce que déjà
je pense
exactement parce que t'as Pep qui est quand même qui fait son âge par moment et si tu les prends en contre etc joueur qui va vite
et d'ailleurs là
gagner un peu confiance
il y a la conf de presse là en direct de Roberto Martinez là je suis en train de lire les déclats là sur le déroulé de la conf et lui dit on lui pose la question à savoir comment il va défendre etc il dit la chose qui le préoccupe le plus c'est les contres de l'équipe de France justement parce qu'on lui a posé la question attention à Mbappé et lui dit non la chose dont moi je fais le plus gaffe c'est les contre attaques donc
après
ça
Liga,
Ouais, après, non mais donc
gars,
ça veut dire qu'il va avoir le ballon.
Après sur les contres, mais pardonnez-moi, mais on est davantage sur un fantasme hein, quand on parle de l'équipe de France parce que l'idée, d'ailleurs tout à l'heure on va en parler, l'idée de voir l'équipe de France exploser en contre, ça fait bien longtemps que j'ai pas vu celle-là. Parce qu'on parle davantage
même d'une profils,
équipe,
les profils même qui les va profils, exploser en clon, on, contre.
Exactement. Donc moi, Roberto Martinez, j'en
sur le but contre la Belgique, mais, c'est Kanté qui explose.
Oui, mais dans l'idée,
après,
si tu
exploses vraiment.
Si tu pars avec Dembélé, Colomouani, Mbappé, t'as plus de chances que ça.
J'adore ton monde. J'adore ton monde. J'aimerais y aller, mais je crois qu'il existe.
Non, mais Sofiane, tu vas me dire que Mbappé n'est pas capable demain de mettre une accélération à Pep, par exemple.
Il adore dévorer les espaces.
Mbappé, vous parlez.
Mais je sais pas. Même Sesko, il en a mis 2-3, notamment à partir de l'heure de jeu. lors du 8e de finale.
Attends, mais tu veux comparer la mobilité de Sesco et Mbappé?
On est d'accord, c'est le plus rapide de l'Euro, il a payé, on est d'accord.
Et Nico, j'espère sincèrement que Roberto Martinez n'est pas resté sur Saint-Pétersbourg 2018, parce que l'équipe de France qui explose en contre, encore une fois,
il n'existe pas. Oui, pour l'instant,
il n'existe pas.
Et la présence de Giroud dans un match, parce que c'est vrai qu'on l'a très peu vu depuis le début, on est d'accord que demain c'est pas son match, c'est pour lui.
Ça fait deux ans qu'il compte pas vraiment pour Deschamps. Il a tenté d'installer Colomoigny, puis il a essayé la formule Thuram. C'est pas pour remettre Giroud à l'occasion d'un quart de finale contre le Portugal.
Malgré les prestations de Thuram.
Malgré les prestations encore plus à 0-0 contre la Belgique, celui qui entre c'est Colomoigny, c'est pas Giroud.
Mais par contre, moi je mets la pièce sur Colomoigny plutôt que Thuram pour démarrer.
Surtout dans un profil de match, on le rappelle, Rabiot, parce qu'on sous-estime vraiment l'importance de Rabiot pour Deschamps, parce que moi je l'ai pas trouvé exceptionnel du tout face à la Belgique, loin de là. Mais pour bloquer le couloir gauche et laisser de la liberté à Mbappé, il est très important. Donc en plus, si tu enlèves Rabiot dans ce profil-là, je le vois pas jouer, faire mumuse avec des attaquants verticaux, hein, loin de là. Hein.
Landry, tu voulais réagir, je crois, sur Colomoigny?
Ouais, non, mais c'est vrai que ça peut être une bonne solution. C'est vrai qu'il va apporter de la profondeur. En plus, voilà, c'est un mec, il a de la grinta, il apporte, il défend, il presse et tout. Donc, non, ça peut être une bonne solution. Après, il apportera moins, en tout cas, en déviation. Donc, ouais, c'est un choix de joueur et ça va être aussi un choix tactique finalement. Et si on veut défendre, Thuram sera peut-être plus aussi à même d'apporter son physique et de permettre de conserver le ballon.
Après, il est capable aussi, Colomoigny, de défendre, d'aller bloquer le couloir, parce qu'effectivement, il va falloir faire ça pour soulager, comme tu le disais, Mbappé, pour pouvoir couvrir un peu côté gauche. Colomoigny, il a le profil pour le faire. Et c'est surtout que moi, j'aime bien Thuram, je trouve qu'il a fait une super saison avec l'Inter, mais force est de constater que depuis le début de l'Euro, c'est ultra compliqué.
Mais non, mais c'est son profil, c'est une hérésie de le mettre tout seul. Il est esselé. Oui,
il a toujours joué à l'Inter,
il joue à deux.
Il fait un autre métier en équipe de France.
Non, mais sincèrement, moi c'est pour ça que je veux bien moi les fausses réponses du France-Belgique, parce que soi-disant, mais moi j'ai énormément sur les individualités, j'en sors trois qui ont été corrects sur le match, sur Koundé, sur Saliba et allez, si tu veux je sors Tchouaméni, parce que Tchouaméni a une capacité à changer de à faire des transversales, un peu plus accélérer le jeu, et puis il a une capacité aussi à frapper de loin, voilà, ça peut servir. Mais sinon, sincèrement, je vois pas ce que le France-Belgique t'a apporté dans la progression de tes individualités. Je pense même qu'on a perdu du temps.
La question des individualités, c'est davantage l'équipe qui compte pour Didier Deschamps. Et force est de constater que lui,
mais l'équipe, elle est dysfonctionnelle pour moi. Elle est dysfonctionnelle.
Défensivement, elle est pas dysfonctionnelle.
Mais défensivement, c'est quoi? Négatif.
Non, c'est pas négatif.
Mais en fait, à chaque fois, on réfléchit à la défense en pensant aux défenseurs. Mais moi, si tu mets un danger supplémentaire devant, un Barcola, il aurait très bien pu annihiler la montée de Doku en étant dangereux sur son côté. À chaque fois, on pense défensif, faut blinder les côtés. Mais moi, je te dis, Koundé, il est en forme depuis 2024, début 2024. Il aurait très bien pu suffire sur ce match-là, et un Barcola ou un Dembélé, j'en sais rien, sur le côté droit, aurait pu pousser un petit peu plus cette équipe dans ses retranchements, et du coup, t'aurais eu aussi
il s'est toujours retrouvé là-dedans. Tu connais Deschamps, il s'est toujours retrouvé dans des équipes qui étaient solides défensivement, et il en a rien à faire.
Moi,
on assistait à une purge.
Bien sûr,
il va aller en demi-finale.
Non, mais attention, moi, l'équipe de France de Deschamps, je la connais, il n'y a aucun problème. Je réfléchis en termes de cohérence. Je trouve que cette équipe n'est pas cohérente, parce que je ne comprends pas comment tu peux être dangereux avec cette équipe. C'est quand même le point principal d'un match de football, c'est de faire mal. Je ne sais pas qui est capable de te faire mal dans cette équipe-là. Donc la cohérence, moi, si on me dit Deschamps, il fait bloc bas, mais vraiment dégueulasse, limite dans la tribune derrière. Il y a 10 joueurs derrière, et il y a un mec, enfin 9 joueurs derrière, et il y a un mec devant qui est là pour les transitions. Je comprendrais l'idée, je caricature, hein. Mais là, sincèrement, c'est une sorte de mi-bas. Bon, ça
mais ils ont les occasions quand même, Sofiane.
Ouais, mais les occasions, franchement, tu sais, il y a deux tirs cadrés.
Non, mais en termes de, alors après, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je suis pas hyper fan de ces stats-là, mais en termes de XG, qui sont très que le Portugal, par exemple, depuis le début.
Sur une moyenne de 15 tirs par match.
Donc on peut pas dire qu'ils produisent rien. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est pas sec.
J'ai un avis.
C'est ce que nous dit Thuram sur YouTube. Il dit pas besoin de suranalyser, on manque juste d'efficacité.
Ouais, il y a un peu
les occasions, la possession.
Mais l'efficacité, pourquoi tu cadres mal? Parce que tu mets dans des positions des joueurs qui ne doivent pas être dans cette position.
Non, regarde, c'est Mbappé qui est en loupe 5 contre la Belgique. Normalement, le Mbappé qu'on connaît, il en met au moins une sur les 5.
Mais
sur
lesquels?
Il a 5 tirs non cadrés dans la
surface. Je reste. Attention, je reste que sur France-Belgique parce que c'est pour moi un tournant en termes de tactique, on va reproduire la même. Donc moi je vous dis sincèrement, je ne sais pas qui est capable de se mettre dans. Attends, c'est Jules Koundé qui est dans des situations de frappe sur le côté. C'est lui qui est le mieux placé à chaque fois. Donc vraiment, moi j'ai un problème. Je trouve que le 11 est dysfonctionnel.
Mais maintenant, par rapport à la Belgique, par exemple, je vais te donner un chiffre. Kylian Mbappé touche 12 ballons dans la surface. Tu peux raisonnablement penser qu'il doit faire beaucoup mieux avec ses 12 ballons.
Mais comment il les touche, Elton?
Oui,
il les touche arrêtés. Il les touche arrêtés.
La finalité, c'est que ton terminal offensif qu'est Kylian Mbappé a ses 12 ballons dans la surface. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'acheminement du ballon pour le mettre davantage dans les conditions.
C'est lent.
Mais le fait est que quand t'as Kylian Mbappé qui a ses 12 ballons dans la surface, ça veut dire que t'as quelque part une garantie d'avoir ces types de ballons.
Est-ce que vous rappelez du but d'Mbappé?
C'est savoir comment il progresse
face
là-dessus.
À la Pologne en 2022 en phase de groupe. Est-ce que vous rappelez de ce but?
Justement, dans une situation similaire à ce qu'il a connu.
Comment il est lancé? Il est pourtant dans la surface. Il est pas arrêté. Vous rappelez comment il est lancé sur cette action-là? Parce que on parlera après d'Mbappé sur l'attaque de l'espace. Moi, je pense pas qu'aux espaces derrière les défenseurs. Je pense aux espaces entre les défenseurs et les milieux.
Bien sûr.
Il est tout le temps arrêté. Donc, c'est pour ça que je dis dysfonctionnel. C'est parce que pour moi, cette équipe est lente et que je ne vois pas comment elle peut être dangereuse dans cette condition.
Dysfonctionnel sur le plan de l'attaque. Parce que,
évidemment, je pense que demain, tu vas être surpris, moi. Moi, je suis persuadé que ça va envoyer et que tu verras.
Bon,
et là encore, Martinez, il en parle encore là dans la
conférence.
Il insiste là-dessus. Ouais, moi non. Mais, d'ailleurs, très intéressant parce que autant Fernando Santos, le prédécesseur, il était dans le mode, on l'avait beaucoup critiqué pour son jeu. L'important, c'est de gagner. Très caricatural, un peu comme Sergio Conceição. Là, la question lui a été posée en fin de conf de presse, est-ce que l'important c'est de gagner ou de bien jouer? Et lui il dit, quand on joue bien, on joue mieux, et moi j'aime le beau jeu. C'est-à-dire que lui, c'est l'antithèse, du moins dans le texte, et d'ailleurs c'est souvent ce qu'on reproche à Martinez, c'est qu'il dit une chose et il fait l'inverse, mais c'est que lui au moins, il est dans j'assume le fait de vouloir avoir le jeu, de faire du jeu et de bien jouer. Quoi.
Après,
ça garantit pas forcément
c'est ça.
Surtout lui, c'est un spécialiste.
Je remercie Landry d'avoir été là, merci Landry, bonne soirée, bon match.
Merci les gars, et puis bon match à tous, et une petite dédicace quand même à la team Secret Story, voilà. Allez,
Je sais pas si c'est homologué ça.
C'est la team Secret Story.
Bon match les gars, et puis en espérant une belle victoire.
T'aurais jamais fait ça sur le 22 minuit toi.
Ah ouais.
Attends Landry, rappelle.
Manque de respect.
Rappelle tout à l'heure s'il te plaît, on va faire le débat pareil sur la conf. S'il te plaît, rappelle vraiment.
Ouais,
dis-le à Max si tu nous refais une dédicace Secret Story.
À tout à l'heure Landry, bisous. Bonne soirée.
Je vous salue.
Ciao. Merci Nico, on te retrouve à 22h pour l'after.
Donc je m'en vais.
Ah, tu veux rester?
D'accord, non, je me casse.
Ouais, voilà. Merci.
Non, je signe mon conducteur.
Avec Walid Acherchour, 22h.
Ah ouais.
Et c'est qui l'autre?
Bah, c'est El Jefe, le grand.
Le grand.
Bah, la référence de tous les joueurs professionnels de football.
Keke Diaz.
Un point au quiz. Ouais, c'est cadeau.
À tout à l'heure, Nico, pour l'after à 22h. Mbappé, il en est question. Dans un instant, il était en conférence de presse aujourd'hui. Il a dit beaucoup de choses. Vous allez l'écouter. A-t-il eu une attitude de capitaine en conf? On vous attend au 32-16. Max est là au standard et vous venez en débattre avec Génération After. Avec Sofiane Zouaoui, Elton Mokolo, Jimmy Brown. Et je vous rappelle qu'à 21h45 sur RMC, vous aurez le quiz de l'after pour remporter votre Bombers Shot. Vous envoyez quiz par SMS au 732-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
Avec Jimmy Brown, Elton Mokolo et Sofiane Zouaoui, Génération After en direct jusqu'à 22h. Merci d'avoir choisi RMC une fois de plus. Dans quelques minutes, l'avis d'Elton sur l'autre quart de finale demain, Allemagne-Espagne. L'acte fondateur de la nouvelle génération espagnole, c'est ce que...
Jour historique demain.
Oh, carrément.
Ah oui, carrément. Oui.
Tu nous dis ça dans un instant, le 32-16.
On espère.
Bien évidemment, pour participer. Je vous lis toujours sur le chat de la chaîne YouTube. Le message de Sam. La France peut-elle tenter une tenaille demain en mettant Mbappé comme une sorte de poste avancé? J'adore la ref Sam. 7e compagnie. Mais à la fin. Oui, je sais que vous ne l'aviez pas. Donc
c'est honteux, mais je ne l'ai pas vu.
On t'a fait confiance.
Merci, les gars. Et vous pouvez là-dessus.
Allez.
À la veille de ce quart de finale face au Portugal, capitaine Mbappé était en conférence de presse à Hambourg et devant les micros, en tout cas, il est toujours aussi bon, aussi vif. Écoutons son explication à la question pourquoi il ne prend plus la profondeur comme avant.
Un attaquant, il doit toujours s'adapter à toutes les situations qu'il a. S'adapter à ses coéquipiers qu'il a, caractéristiques de ses coéquipiers. Je pense que beaucoup de gens font des références au jeu qu'on avait quand je suis arrivé en sélection. Mais on avait des joueurs différents. Je pense qu'on avait des joueurs au milieu, par exemple un joueur comme Paul Pogba qu'on n'a plus aujourd'hui. Avec Paul Pogba, tu as juste à baisser la tête, à courir, faire un appel. Tu sais que le ballon il va arriver dans ton pied. Donc c'est tout de suite... Pour un attaquant, analyser quel type de joueur tu as avec toi et essayer de les mettre dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, avec les joueurs que j'ai, peut-être que On peut moins jouer en profondeur parce que c'est moins leur caractéristique de vous envoyer en profondeur. Maintenant, s'il y a des espaces, moi j'adore dévorer les espaces. Donc, s'il y a des espaces demain, je m'engouffrer dedans en espérant qu'on puisse les saisir et marquer des buts.
Est-ce que vous voulez réagir maintenant ou on s'enchaîne
Celle-là, elle est suffisamment incroyable. Ouais, celle qui arrive, elle est folle, mais celle-là, tu dis, donc il a dit avec Pogba, tu fermais les yeux et la balle arrivait dans les pieds. Sous-entendu, sans Pogba.
Manque de respect pour les autres déjà.
C'est incroyable. T'es capitaine de l'équipe, tu dis en fait au milieu de terrain, il n'y a plus un mec qui est capable de mettre la balle en profondeur. C'est ça qui nous explique. Ouais.
Ça, c'est déjà la première variable. Manque de respect par rapport à ces joueurs actuels, à ces milieux de terrain. Même si pour lui, peut-être dans la façon de le dire, il ne le pensait pas comme ça. Mais c'est une très mauvaise communication. Et puis moi, il y a un autre aspect. C'est que je me posais beaucoup de questions, moi, sur les dernières années. Là, c'est pas que sur l'Euro, sur la compréhension tactique de Mbappé. Et en fait, dans cet déclat, ça me confirme qu'il comprend rien du tout. Parce que, clairement, dans cette équipe-là, au contraire, faut prendre la profondeur. Parce que la...
Mais il lui dit pas qu'il faut pas, il dit qu'il peut pas.
Non, mais il peut. Bien sûr qu'il peut. C'est juste que la variété de ses appels, il y aura beaucoup d'appels où il ne va pas être servi. Mais c'est la vie, c'est comme ça.
Oui, mais ça, en 2018, il a accepté de le faire et aujourd'hui, il accepte pas de le faire. C'est ça qu'il nous dit.
Mais surtout que cette équipe, il pense que les caractéristiques de cette équipe lui imposent de rester donc dans la densité, alors que cette équipe, elle est dense au milieu de terrain. Déjà, il y a énormément de joueurs et que lui, il croit que c'est comme ça qu'il va débloquer tactiquement. Au contraire, pour aider ces gars, pour aider les gars au milieu de terrain, il faut qu'ils charbonnent et qu'ils balancent des appels, que ce soit sur le côté gauche, dans l'axe, très certainement, 70-80% du temps, il ne va pas recevoir le ballon, mais il va étirer le bloc. Donc ça prouve, sur cette déclaration-là, sincèrement, qui comprend rien du tout à ce qu'il fait sur un terrain. Vraiment, je pense qu'il a des lacunes graves à ce niveau-là.
Moi,
j'aimerais qu'on l'explique.
Je pense qu'il le comprend tout à fait, mais qu'il se cache justement.
Eh ben, je lui dis que j'ai compris son jeu.
Pour moi, c'est une excuse de circonstance. Voilà. C'est grave quand tu regardes les qualités de Tchouaméni, parce qu'il y a 10 minutes, on a évoqué le jeu long de Tchouaméni. Au Real Madrid, on l'a déjà vu. Camavinga, on l'a déjà évoqué. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça son défaut du côté du Real Madrid. Je dis défaut entre guillemets parce qu'on lui reproche trop de voir le joueur qui est le plus avancé sur le terrain. Rabiot, moi j'ai souvenir.
Même Théo, il est capable de.
Non mais surtout Rabiot. Non mais Rabiot, j'ai souvenir. Le deuxième but de Mbappé, il est consécutif à quoi? Il est consécutif à un jeu long de Rabiot.
Oui.
Donc à un moment donné, la culture de l'alibi de Mbappé, ça suffit.
En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se trompe sur sa com et en plus il se trompe sur le constat. C'est-à-dire qu'il a faux sur le.
Il a faux.
Pour moi, il a
faux. Mais il y a personne pour lui dire.
Pourquoi? Alors ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que tu penses, Sofiane, qu'il est vraiment pas lucide?
Non, c'est ce que dit Elton. Ou derrière, il n'est pas lucide, c'est la culture de l'excuse qu'évoquait Elton.
Peut-être
culture de l'excuse.
Mais j'ai quand même un doute.
C'est une mauvaise excuse.
Parce que ça fait déjà plusieurs mois, même plusieurs années, j'en parlais déjà l'année dernière. En fait, quand tu répètes quelque chose qui ne fonctionne pas, tu peux te poser la question un petit peu à un moment, pourquoi ça ne fonctionne plus. Moi, je pense que c'est un joueur qui, en plus, physiquement, il a passé une saison compliquée. Ça, je veux pas, tu vois, je peux pas lui retirer. Ça a été difficile, même moralement. Mais juste sur le jeu, tu vois, c'est un joueur qui est très prévisible. Parce que même s'il reste un génie dans le jeu, il a des fulgurances dans ce sens-là. Mais je trouve que c'est un joueur qui est limité techniquement. Et c'est un joueur qui est limité dans la compréhension tactique. Et s'il pense vraiment ce qu'il vient de dire en conférence de presse, c'est-à-dire que l'équipe de France, il vaut mieux jouer proche des joueurs du milieu de terrain parce que c'est le style de cette équipe-là, eh ben, on est dans la merde demain. Pour le dire de manière vulgaire.
Mais rappelez-vous, même cette saison au PSG, quand ça allait un peu moins bien, il a aussi dit, voilà, cette équipe a ses limites. Il l'a dit plusieurs fois quand il vit des périodes compliquées. Bah oui, ouais. Mbappé, il a souvent tendance, effectivement, à se chercher des excuses tout en disant, tout en concluant ses phrases par mais je cherche pas d'excuses. Hein. Voilà, bon. c'est les limites de sa communication. Et moi, j'aurais tendance à penser que l'erreur, elle est peut-être de la première erreur, elle est peut-être de
Deschamps.
De Deschamps, effectivement, et de lui avoir donné le brassard. En fait, tu te rends compte
que tout le monde
quand Lloris était capitaine, alors oui, pour nous journalistes, c'était ennuyant parce que Lloris, il te donnait rien à manger, mais c'était le groupe avant tout. Il défendait tout le temps le groupe. C'était fermé, c'était une communication lisse où il y avait rien qui filtrait. Là, franchement, moi, je suis coéquipier de Kylian Mbappé, je suis milieu de terrain de l'équipe de France, je l'entends dire ça. Je sais pas.
Sur le constat en lui-même. Il a peut-être quand même raison sur un truc, c'est que notre milieu de terrain actuel est moins technique qu'il y a quelques années. C'est une vérité aussi. On a été le premier à le dire il y a quelques semaines en disant on arrive à l'Euro sans certitude au milieu de terrain.
Juste petit aparté, avec Pogba en 2021, il marque pas un but, Kylian Mbappé. Pogba était là et Pogba a fait un super Euro, rappelez-vous.
C'était le meilleur joueur.
C'est pas que lié à la présence ou non de Paul Pogba.
Oui, c'est que moi, je pense que pour revenir à l'élève,
il va lui balancer des ballons.
Rappelez-vous, en 2018, il arrive, il est mort de faim, il joue à droite, ce qui est d'ailleurs plus du tout envisageable aujourd'hui. D'ailleurs, petit aparté, quand il dézone à droite contre l'Autriche, c'est de là que le but vient.
Tout à fait.
Ça, il le fait quasiment plus. Avant, il courait, il faisait des appels à vide, il courait pour les autres, etc. Aujourd'hui, il a un autre statut. Mais alors, attention, que ses stats, que Guy Stéphane le disait hier, avec l'équipe de France depuis l'Euro, c'est quasiment un but par match. Bon, voilà, le mec, il fait des saisons à 50 buts, etc. C'est pas n'importe qui, et il est capitaine de l'équipe de France en plus, comme il a été capitaine au PSG. Donc à un moment donné, il s'est dit que il avait peut-être plus autant d'efforts à faire, qu'il pouvait jouer différemment, qu'il pouvait. Moi, je trouve que tu parlais de Ronaldo tout à l'heure, qui est utile dans le jeu. Autant Ronaldo, je trouve qu'il est utile dans cette position axiale, etc. Autant Mbappé, ça lui convient pas. Et il essaye de faire un peu pareil, d'être
mais
là dans les remises,
pas, parce
etc.
Que moralement, il veut pas. Il veut pas. D'ailleurs, Koundé, sur un poste totalement différent, un statut totalement différent, il a expliqué la variable mentale dans l'apprentissage d'un poste. Il disait que moi, latéral droit, ça m'embêtait au début, et c'est ça qui m'a freiné. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui ont des blocages, et lui, il a un blocage d'ego, et il a un blocage aussi de travail, et donc pour lui axe c'est sale de faire des appels dans la profondeur et de pas être servi, c'est sale. Il faut que quand je fais un appel on me la donne, si on me la donne pas c'est que j'ai perdu
exactement
mon temps. Mais collectivement si tu charbonnais un petit peu plus, tu faisais plus d'appels, déjà tu serais dans une dynamique collective un peu différente, t'aiderais tes milieux de terrain à avoir plus d'espace, parce que ça ferait reculer les milieux, ça ferait reculer les défenseurs et ça bénéficierait à tout le monde. Il pense vraiment qu'il est plus dangereux en recevant le ballon à 30 mètres des buts arrêtés et en faisant ces trucs comme s'il était dans une pub Nike. Moi vraiment je pense qu'il est à l'envers tactiquement dans sa compréhension du
et
jeu.
Et surtout la théorie elle progresse.
Ah attention.
Là désolé Elton, tu viens de te faire tuer par l'expérience RMC. L'alerte Cocorico, c'est donc le moment pour vous de vous inscrire pour vivre l'expérience RMC Euro 2024 et gagner votre voyage et vos places pour assister à la demi-finale de l'Euro 2024. La demi-finale des Bleus, s'ils se qualifient demain. Vous avez 5 minutes pour envoyer Euro par SMS au 732-16 jusqu'à 21h. Pour envoyer Euro par SMS au 732-16. Elton, je te laisse finir, on fera une petite pause après, on va continuer le débat, mais vas-y.
Et puis surtout, la théorie de Mbappé, elle prendrait sens si on avait des images en tête où Kylian Mbappé faisait des appels à vide, faisait des appels sans être récompensé. Force est de constater que je ne les ai pas vus. Et encore une fois, pour revenir sur ce qui s'est passé, notamment au Qatar, moi j'ai des souvenirs par rapport à la demi-finale contre le Maroc, on voit Tchouaméni lancer Kylian Mbappé et ça aboutit à une occasion chaude. Donc l'idée que d'avoir des joueurs qui sont entre guillemets sur des profils complètement opposés à Paul Pogba fait encore une fois déjà les questions de Paul Pogba qui est le haut du panier, ça je l'entends, et par contre on va pas m'expliquer, on parle de joueurs qui sont des coffres à ballon qui vont accompagner le ballon sans servir Kylian Mbappé, donc là-dessus je comprends pas où il a voulu en venir.
Dans un instant on va continuer le débat. Mbappé a-t-il eu une attitude de capitaine aujourd'hui en conférence de presse?
Ça, c'est incroyable.
Compris aujourd'hui pas trop pour Génération After, mais n'hésitez pas à faire le 32-16 et venir défendre votre point de vue. On l'écoutera également Kylian Mbappé parler d'Antoine Griezmann et sa méforme supposée. Pas sûr que ça calme Sofiane Zouaoui, Elton Mokolo et Jimmy Brown. On vous attend au 32-16. On continue le débat tout de suite. On fera également un point sur Wimbledon, c'est Génération After en direct jusqu'à 22h.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrand.
Merci d'être là, d'avoir choisi RMC une fois de plus. C'est Génération After avec Sofiane Zouaoui du Winamax FC, avec Elton Mokolo, avec Jimmy Brown. On est en direct jusqu'à 22h où on s'intéresse à l'Euro, bien évidemment. Les quarts de finale demain, dans une dizaine de minutes. Allemagne-Espagne. Quelle journée demain?
D'ailleurs, c'est Espagne-Allemagne, si j'ai envie d'être chiant.
Ah ouais.
Tout à fait.
Ouais, t'es chiant là pour le
c'est
coup.
C'est bien relou
ouais.
Pour le coup.
Ouais, je suis relou. Chiant, c'est le pays organisateur en fait.
Ouais. Bah, je respecte pas le pays organisateur, c'est ça ton truc?
Ah oui, ah oui, oui.
C'est extrêmement relou et c'est ce que me disait à l'instant Kylian Mbappé par SMS. On parlera de l'OM également tout à l'heure avec un avis de Sofiane justement concernant Aubameyang. Et puis 21h, le quiz de l'after. Si vous voulez tenter de remporter un bomber shot, vous envoyez quiz par SMS tout de suite au 732-16. On est toujours en direct sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci d'être là les gars. Et juste avant de continuer sur Mbappé, de l'entendre parler d'Antoine Griezmann, et vous pouvez réagir au 32-16, un point sur le direct. Et le direct, c'est Wimbledon avec le deuxième tour qui continue sous les yeux d'Eric Salio. Salut Eric.
Salut Thibaut, salut à tous.
Salut Eric.
Ouais.
C'est la fête des Français, Eric, c'est la folie, c'est Cocorico.
Oui, puisqu'on a désormais, c'est officiel, ce sera le chiffre définitif, on aura 6 Français au troisième tour.
Mais non.
Oui, oui.
Alors c'est pas un record, hein, je vous arrête tout de suite, hein, on va arrêter de s'emballer, puisqu'en 2010 ils étaient 7, mais la journée était fabuleuse avec la qualification d'Arthur Fils qui a battu Urkacz, avec l'abandon du Polonais qui s'est blessé au genou quelques points avant la fin de ce match. Lucas Pouille qui a bénéficié lui aussi de l'abandon de Kokkinakis, touché au genou. Quentin Alice qui a sorti une grosse perf face à Kachanov, victoire en 5 de Quentin Alice. Et puis il y a quelques minutes, Giovanni Mpeci Pericard, notre Karlovic, notre Wissner, tout ce que vous voulez, qui vient de coller 6-4, 6-1, 6-2 en 1h10 je crois, à Nishioka. 27 aces seulement. Bon, c'est rien par rapport aux 51 aces du premier tour, mais le garçon a un potentiel inouï, et j'attends de connaître son adversaire puisque le match est en cours. Ce sera le gagnant du match entre Tsitsipas et Ruusuvuori. Pour l'instant, il y a 2-7 à 1, je crois, pour Ruusuvuori. Mais voilà, c'est la fête. On se régale. Wow. 2-7-0 pour Ruusuvuori, 7-6, 7-6, mais il y a 5-3 Tsitsipas. C'est un match qui peut s'éterniser. Donc, c'est l'info du jour. 6 Français au troisième tour de ce Wimbledon 2024.
Énorme.
Faudrait créer un grand chelem en France un jour.
Ça marcherait, ça marcherait jamais.
Ouais, ça marcherait pas.
Ou le problème, c'est vraiment mettre une autre surface que le gazon, je crois.
Ouais, bah exactement. J'en ai parlé avec Lucas Pouille, c'est que le problème, c'est que tous nos meilleurs joueurs français ont été élevés en salle, en indoor.
Et voilà.
Donc,
voilà
le résultat. On peut pas briller sur terre si t'as été élevé sur surface rapide. La mauvaise nouvelle quand même, j'en parle, c'est l'élimination de Caroline Garcia, battue en 3-7 par l'américaine Bernarda Pera. Donc il n'y a plus de Française dans le tableau féminin.
Merci beaucoup Eric. On est rendu à s'exulter sur le nombre de Français qualifiés au troisième tour dans les grands chelems maintenant. Est magnifique le niveau de tennis français.
T'as tout à fait compris Corleone.
Exactement, c'est bien ça.
Corleone sur le chat YouTube.
Un chat offensif. Chat très offensif.
Ouais, ils sont pas aimés pour Mbappé.
Ouais, ils ont pas aimé pour Mbappé. Ils ont raison de donner leur avis.
Un petit peu raison quand même. C'est bien d'avoir 6 Français au troisième tour, mais un seul en demi, on sait, ce serait bien déjà. Kylian Mbappé, donc on conclut sur l'équipe de France à la veille de ce France-Portugal. Il était en conférence de presse. A-t-il eu une attitude de capitaine? On vous attend au 32-16 pour en débattre et je voudrais qu'on écoute sa réponse concernant Antoine Griezmann. Il a été interrogé sur le coup de moins bien supposé d'Antoine Griezmann, capitaine Mbappé à la défense.
Antoine, c'est vrai qu'il a été un peu charcuté ces derniers temps. Je trouve que c'est un peu difficile. Je trouve ça un peu injuste. Surtout que les critiques elles venaient majoritairement du pays. C'est un joueur qui a beaucoup donné pour la sélection et je pense que c'est important d'avoir de la reconnaissance. Il est dans un moment un peu plus dur. Ça, c'est une vérité de le dire et c'est pas une honte de le dire, mais je pense qu'il devrait avoir le soutien de tout le monde. Il a le soutien de tout le groupe. Ce serait bien qu'il ait le soutien de vous, les journalistes, des gens, parce qu'il a fait beaucoup pour la sélection et je pense que c'est important d'avoir la reconnaissance des joueurs qui ont porté ce maillot, qui ont fait les grandes heures de notre pays, et il en a fait partie. C'est dommage qu'il ait un petit coup de moins bien et qu'on le jette dans la rue et qu'on le gratine. C'est quelqu'un qui aime être soutenu, qui aime être aimé. Vous voyez sur son visage quand il est soutenu, il donne le meilleur de lui-même. Donc aidez-le et essayez de faire tout pour qu'il nous aide parce que c'est un joueur important pour nous.
Kylian Mbappé au micro d'Arthur Perrault.
Une remarque. Quand il dit des choses positives sur lui, il parle au passé. Oui. Et quand il le fracasse, il parle au présent.
Exactement.
C'est fabuleux.
Exactement.
C'est fabuleux. C'est-à-dire qu'il parle, on dirait qu'il est en train de faire son jubilé, Antoine Griezmann. Ouais, ça a été quand même un joueur pas mal, etc. Bon, en ce moment, par contre, c'est vrai. Hein, ouais. Il est dans le dur.
Il le répète bien. Il dit c'est vrai, vous avez raison, il est totalement éclaté.
Ouais.
Est-ce que j'ai dit qu'il était éclaté? Ouais, je vous ai raison. Il est éclaté en ce moment.
Mais franchement, mettez-lui une petite tape sur l'épaule, Antoine. Bah, et puis.
Un son
d'une minute. Là, il le défend. Qu'est-ce que vous voyez d'autre?
Il défend Antoine Griezmann il y a 5-10 ans.
Il y a autant un problème de fond et de forme. Déjà sur le fond, mais il n'a jamais été question de débattre du CV d'Antoine Griezmann. Je ne pense pas qu'il y ait une personne sur le plateau qui va te dire que Antoine Griezmann n'est pas un joueur majeur de l'histoire, et je dis bien de l'histoire de l'équipe de France. Ça, il n'en est pas question. On parle des performances. Deuxième point qui me dérange, déjà la couverture d'une équipe nationale, elle n'est pas internationale, elle est davantage nationale. Je ne suis pas sûr que l'actualité de l'équipe de France intéresse par exemple la Suisse. Quand bien même il peut y avoir des journalistes qui sont au courant de ça.
C'est-à-dire il attend surtout qu'au pays on soit derrière, etc.
En gros, il explique que les critiques, en gros, si elles sont internationales, pas de souci. Mais par contre, si c'est national, là, c'est un vrai problème. Et ensuite, dernier point, c'est quelque chose qui me dérange profondément, c'est qu'en gros, par rapport à l'histoire du pays de foot, Mais Kylian Mbappé, t'as vu la différence entre les joueurs anglais et la presse anglaise? T'as vu le cas Cristiano Ronaldo qu'on a évoqué hier via la presse nationale? T'as vu ce qui s'est passé avec l'Espagne par rapport à Pedri? Enfin, j'ai envie de dire, il y a des problèmes internes partout. Est-ce que l'Espagne est un pays illégitime par rapport au foot parce que les performances de Pedri sont remises en question? Est-ce que l'Angleterre n'est plus un pays de foot parce que, en gros, il tabasse tous les joueurs anglais? Est-ce que le Portugal est un pays, n'est plus un pays de foot parce que Cristiano Ronaldo est remis en question?
Pardon, je t'interromps, mais à la limite, ça, c'est secondaire par rapport à ce qu'il dit sur Griezmann, son coéquipier, qui est peut-être le joueur le plus important de l'équipe de France sur les 10 dernières années.
Non, mais c'est maladroit. Mais le fond du truc, c'est qu'il veut l'aider, il veut lui venir en aide. C'est pour ça, il en fait trop. C'est ce que tu dis, Elton, sur l'histoire du pays de foot. Tout ça, évidemment, il en fait beaucoup trop. Mais c'est sa manière à lui d'essayer de
faire. Elle est maladroite. Elle est très maladroite. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas un discours qu'un capitaine peut tenir avec un match aussi important.
Dans le fond du truc, c'est maladroit sur la forme. Mais le fond du truc, c'est qu'il est là en tant que capitaine. Et voilà, il veut sortir
des joueurs. Tu protèges ton équipe pour soi-même. Tu dis, Antoine, il est extraordinaire. Antoine, il va vous montrer demain qu'il va faire un match énorme.
Tu dis n'importe quoi. On voit tous son
euro. T'es capitaine, tu défends. Avant tout, le premier objectif pour moi d'un capitaine, c'est de défendre son groupe.
Mais là, c'est ce qu'il fait. Il défend Griezmann.
Tu peux le défendre en disant, écoutez, il est très important, Antoine Griezmann. Il fait beaucoup d'efforts sur le terrain que vous ne voyez pas. Et donc, vous avez l'impression qu'il est un peu plus en difficulté. Je pense que toute l'équipe peut faire mieux ensemble. Même moi, j'ai pas été très bon sur le dernier match, mais j'ai de grande confiance en Antoine Griezmann. Il fait, voilà, tu vois,
tu devrais faire du media training, toi.
Non, mais on peut contourner. Parce que là, la façon dont il le dit, moi, j'ai un sentiment de gêne. Et j'ai aussi un sentiment de gêne, au final, par rapport à qui parle. Parce qu'il y a un problème de légitimité, non pas sportive, parce que c'est quand même un grand joueur d'équipe de France, mais il y a un problème de hiérarchie.
Bah oui.
Tu vois, c'est comme si un nouveau, parce qu'il est encore nouveau, on va dire hiérarchiquement par rapport à Griezmann.
Même s'il n'est pas nouveau par rapport à Griezmann,
Griezmann, c'est la représentation de l'équipe de France de Didier Deschamps. Et c'est comme s'il y avait un petit, évidemment, qui a de grandes qualités et qui a toute sa place dans le présent et le futur de l'équipe de France, qui venait en conférence de presse et qui lui tapait comme ça sur l'épaule et Antoine, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est vrai que t'es dégueulasse en ce moment. D'ailleurs, je le dis aux journalistes, c'est dégueulasse. Mais t'inquiète, parce que t'étais une légende de l'équipe. Tu vois, en plus au passé. Il y a un problème dans la forme et moi ça me dérange.
Et dans tout ce qu'on dit là, pardon, il est aucunement en question de remettre en cause le joueur, le talent de Kylian Mbappé, etc. C'est un footballeur exceptionnel, Kylian Mbappé. Mais quand t'es capitaine, quand tu prends la parole comme ça. Je veux dire, moi, si je suis Antoine Griezmann,
comment il parle de moi, lui.
À la limite, il aurait pu dire pour le défendre. N'oubliez pas qu'il a joué à droite. Contre la Belgique, il s'est sacrifié pour les autres. Voilà. Il dit même pas ça.
Non, mais parce qu'il est, il est parti dans une explication un peu maladroite. Mais le fond du truc, c'est que
c'est souvent le cas.
Maladresse sur les milieux de terrain qui peuvent pas lui mettre un ballon en profondeur. Mais maladresse sur Antoine Griezmann.
Dans le chat, il répondait à une question arrêtée. C'est bien de réagir aussi par rapport à ce que le chat dit. Faut pas sous-estimer l'ego des mecs dans le vestiaire.
Bien sûr.
Griezmann, même si c'est un mec gentil et qui protège très souvent son groupe, c'est un mec avec un énorme ego et c'est normal parce qu'il a fait cette carrière aussi grâce à ça. Je vous le dis, dans l'équilibre d'un vestiaire, si j'ai un petit qui parle comme ça de moi alors que je suis la représentation de l'équipe de France de Didier Deschamps, j'aimerais lui dire, hey gros, c'est bien gentil ta défense, mais ta défense elle est un peu gênante, quoi. Je le ressens comme ça.
Griezmann qui était pressenti, si ça n'avait pas été Kylian Mbappé le capitaine, tu imagines une seconde Griezmann venir, parce que Mbappé aussi est en difficulté depuis le début de l'Euro. Au moins autant que Antoine Griezmann.
En plus.
Tu imagines Griezmann dire, bon là vous allumez un peu trop, il a été bon ces dernières années, Kylian. Bon là c'est vrai, tollé que ça aurait créé si Griezmann avait dit ça.
On a eu justement le cas à l'occasion du premier rassemblement de l'équipe de France où Griezmann il a quand même dit, ouais mais Mbappé il a mis une quarantaine de buts.
Mais oui, il défend toujours le groupe.
Manière de, entre guillemets, de fermer le débat. Et à l'époque déjà, on n'était pas forcément d'accord avec Antoine Griezmann, mais ça s'entendait. Là, du côté de Kylian Mbappé par rapport à Antoine Griezmann, il y a surtout cette idée de dire, ouais, Antoine Griezmann, c'est pas bien, on devrait le soutenir, alors qu'il n'est pas question de ça, puisque j'insiste sur un point, sanction sur le troisième match, elle émane de Didier Deschamps quand il le met sur le banc, pas nécessairement de la presse.
Il y a Mathieu qui est avec nous au 32-16. Salut Mathieu.
Salut
Mathieu.
Sois le bienvenu dans Génération After. Est-ce que Mbappé a une attitude de capitaine aujourd'hui ou pas?
Bah alors déjà juste avant, une toute petite dédicace à Sofiane et Elton, parce que je suis un grand écouteur du WFC, je suis un Winami.
Merci.
Du coup voilà.
Un Winami.
Déjà c'est les beau, gars, moi par rapport à votre question, en fait c'est tout simple. Mbappé, il a absolument pas eu une attitude de capitaine. Comme l'a dit Elton juste avant, Griezmann l'a défendu au premier rassemblement. Deschamps passe son temps à le défendre, tout le monde passe son temps à le défendre, et je pense que Mbappé, au lieu de parler comme il a parlé, il devrait parfois juste en fait se dire que le problème il vient aussi peut-être un peu de lui, parce que moi je pense que Kylian depuis un an et depuis sa préparation manquée au PSG et voilà, il a un problème physique, il a plus cette explosivité qu'il avait avant.
C'est ce qu'il a dit d'ailleurs hein, aujourd'hui en conférence de presse, on l'a pas écouté, mais c'est ce qu'il a dit qu'il
il en a parlé mais il a réellement, voilà, je trouve qu'il a plus cette explosivité, il a plus cette jeunesse, cette fougue qu'il avait quand en 2018 par exemple. Et aujourd'hui, avant de parler des autres et avant d'exploser son groupe, parce que clairement aujourd'hui je trouve qu'il a été dur quand il parle de Pogba et qu'il dit que les autres ne peuvent pas prendre la profondeur, ça je trouve ça vraiment déplacé en fait, surtout à la veille d'un quart de finale. Je trouve ça déplacé la façon dont il parle d'Antoine Griezmann, alors qu'Antoine Griezmann l'a défendu il y a même pas deux mois. À un moment donné en fait, t'es censé aujourd'hui souder ton groupe en tant que capitaine, t'es censé mener ton groupe à la victoire, et aujourd'hui il n'a pas eu une attitude de capitaine. Et pour moi, Griezmann est beaucoup plus légitime, rien que dans ses mots et rien que dans cette conférence de presse, il prouve que Griezmann est plus légitime que lui pour être capitaine.
Largement.
Aujourd'hui, je te rejoins. Mais bien sûr.
Et pour toi, c'est de la maladresse ou c'est plus profond que ça ?
C'est de la maladresse, mais je pense que c'est vraiment de la guerre d'ego. Je pense qu'aujourd'hui il voit, parce qu'on dit que les joueurs sont enfermés dans leur bulle, surtout avec Deschamps et tout ça. Mais je pense qu'il voit les critiques qu'il y a sur lui, et je pense qu'il essaye aussi un peu de les déplacer. Je pense clairement que c'est de la maladresse, mais Kylian, on le connaît en conférence de presse, il est quand même rarement maladroit. Il sait quand même ce qu'il dit, il pèse ses mots, et je pense qu'il essaye un petit peu de déplacer le problème et de dire ben regardez, le problème c'est pas moi, le problème c'est que les autres autour ils sont moins bien, le problème c'est que les autres autour ils prennent moins la profondeur et que moi du coup ben, je peux moins aller faire ce que je faisais avant. Mais c'est pas vrai. À un moment donné il faut qu'ils se remettent en question et il faut qu'ils disent ok, peut-être que moi je manque d'explosivité, mon groupe autour c'est à moi de les mener à la victoire, et ils doivent jamais les exploser comme ça, parce que là ça va créer un vrai problème dans le vestiaire. Et si demain on se fait éliminer en quart de finale, eh ben je peux vous assurer que tout le monde va revenir là-dessus en disant que Mbappé a noyé son groupe à un jour du match.
On en revient au problème originel qui est de savoir: est-ce qu'un joueur qui a construit sa carrière de grande qualité, il faut le répéter, de grande qualité pour le moment sportivement, construit autour de sa personne, est-ce qu'il est capable tout d'un coup de parler pour les autres? Moi, j'ai un énorme doute par rapport à ça.
Ça, c'est un challenge pour beaucoup de joueurs.
Mais à ce point-là, là, on est vraiment dans une forme de caricature. Et juste aussi, c'est que c'est aussi pour son bien. Car moi, je pense que ce statut, tout cet empilement de statut, tout cet empilement de prix qu'on lui décerne, qui sont parfois logiques, mais qui sont parfois abusés, je pense que c'est trop pour un joueur, et qu'à certains moments de sa carrière, je pense qu'il a besoin de se libérer un petit peu de cette charge.
Le match
et
est
je
demain.
Je crois que c'est le moment en ce moment.
Avec Mbappé capitaine, France-Portugal à 21h. D'ailleurs, événement sur RMC.
Il mettra demain, il mettra tout le monde.
Voilà. Et ben, on sera heureux, ça n'a aucun rapport avec le débat d'aujourd'hui.
Triplé, voilà, ben, on ce sera content. Demain. Et d'ailleurs, RMC sera sur Rennes, là où tout a commencé pour N'Golo Kanté. On continue la tournée des clubs formateurs de nos joueurs français. Dès 18h pour vivre ensemble Espagne-Allemagne. Ça va, Sofiane? En direct sur écran géant, et ensuite le match et l'after dans la foulée. Si vous voulez venir, vous faites un mail à public@rmc.fr. Demain, en direct de Suresnes. Du foot, une équipe de France qui joue en direct, ça vient de partir. C'est l'équipe de France de Thierry Henry. L'équipe de France olympique débute sa préparation par un match amical face au Paraguay. Ça se passe à Bayonne. Et c'est Paul Lafitte qui est sur place. Salut Paul.
Salut Thibaut, bonsoir à toutes et à tous.
C'est parti.
Eh oui, c'est parti, il y a pile poil 45 secondes ici dans un stade quasiment à guichet fermé, Thibaut, évidemment, pour cette première rencontre pour les hommes de Thierry Henry, tu le précisais, qui a tenu hier une conférence de presse et qui a fait deux annonces. La première, c'est qu'Alexandre Lacazette sera le capitaine de cette équipe de France durant le tournoi olympique, et la deuxième, c'est le départ hier après-midi, la mort dans l'âme de Khéphren Thuram, hein, qui va signer à la Juventus de Turin, et la Juventus de Turin n'a pas voulu que son futur joueur donc dispute cette compétition, donc il a quitté les Bleus hier après-midi. Eh bien c'était un déchirement pour le joueur Khéphren Thuram. Lacazette donc sera titulaire ce soir évidemment. Et puis deux trois petites infos quand même. Il y aura quatre joueurs qui seront en tribune. Hein, on le sait, Thibaut, durant cette compétition olympique, le gardien remplaçant Théo de Persin. Les trois autres sont titulaires ce soir. Il s'agit de Andy Diouf. Il s'agit également de Chrislin Matsima ou encore de Leslie Hugo Chukwu. Donc ces trois joueurs sont titulaires pour ce match contre le Paraguay. Coup d'envoi donné donc à Bayonne il y a un petit peu plus d'une minute trente.
Merci beaucoup Paul. C'est vrai que c'est étonnant de mettre titulaire trois mecs que tu prends pas quand même.
Alors voilà. Que là, y a... la liste va être encore amenée à bouger, ouais, que finalement,
on sait jamais. Hein.
Là, on est au bout de deux minutes, mais il y a Olise qui vient de sortir parce que Chelsea vient de l'acheter.
plutôt Bayern.
Ouais, c'est le risque, effectivement. 21h17, petite pause.
C'est les JO.
On est de retour dans Génération After avec Sofiane Zouaoui, Elton Mokolo, Jimmy Brown. Pour l'avis d'Elton sur Espagne-Allemagne, l'autre quart de finale demain. Elton attend beaucoup de la nouvelle génération espagnole. C'est tout de suite et c'est sûr.
C'est cool, les Bleus tombent pas sur le Brésil.
En même temps... Attends,
ils sont pas qualifiés les Brésiliens ?
Betclic souhaite la bienvenue à tous les parieurs, même ceux qu'on ne voit que tous les deux ans. Rendez-vous dès maintenant sur l'application Betclic pour profiter de tes bons plans et tente de débloquer un max de free bet en tournant la nouvelle roue des défis. Betclic, l'app officielle pour parier sur les Bleus. Sous réserve d'éligibilité, voire conditions sur le site, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
Il est 21h21, Génération After avec Sofiane Zouaoui, Elton Mokolo, Jimmy Brown. À suivre 21h45, le quiz de l'After. Vous envoyez quiz par SMS au 732-16 pour vous inscrire, participer et tenter de remporter un Bombers Shot. On parle de l'OM dans quelques minutes avec l'avis de Sofiane concernant Aubameyang. Mais d'abord, et tiens, et juste avant Elton, ton avis tranché, il y a déjà eu un but. Ce début de prépa se passe bien pour l'équipe de France Olympique, Paul Laffitte.
Ouais, Thibaut, magnifique. Après trois petites minutes de jouer, c'est un but de Juan Salcedo qui permet donc au Paraguay de mener 1-0. Attention, c'est une occasion pour l'équipe de France dans la surface de réparation, mais c'est un ballon perdu par Luqueba au 30 mètres qui a donc permis eh bien, ce rush un petit peu en solo de Salcedo qui a fixé et qui a trouvé donc le petit filet. 1-0 donc pour le Paraguay. On joue depuis 7 petites minutes ici à Bayonne en première mi-temps.
Ça se trouve, Olise, c'est lui qui va partir de lui-même au bout d'un moment.
Oui.
Voilà. Non, j'ai reçu un texto, faut que j'y aille, monsieur.
Mmh. Le gardien s'est taillé d'ailleurs sur le but de Paraguay.
Ouais, il a commencé. Espagne-Allemagne, demain à 18h, en direct sur RMC, le premier quart de finale. Jingle Elton.
Je pense avoir un peu de métier pour pouvoir gérer ces situations. J'ai parlé de quoi, okay. Je me souviens même plus.
Je sais pas, mais apparemment, tu étais là.
De nuit, a priori.
Ça, c'est fortement probable.
T'attends beaucoup de ce match, et notamment et surtout de la nouvelle génération espagnole.
Et pour moi, Thibaut, demain du côté de Stuttgart, c'est beaucoup plus qu'un quart de finale qui va jouer pour la nouvelle génération espagnole. Alors oui, évidemment, l'année dernière, l'Espagne a remporté la Ligue des Nations, mais là, on parle d'un quart de finale d'Euro. Et grand respect pour la Ligue des Nations, mais ça reste la Ligue des Nations. Et moi, je pense que demain soir, en cas de qualification contre l'Allemagne, ça va être l'occasion d'avoir un acte fondateur pour cette nouvelle génération espagnole. Si tu veux, j'ai le parallèle de l'Euro 2008, où tu avais justement cette nouvelle génération qui avait battu l'Italie au tir au but, et ça avait lancé la série de triplés avec justement l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Bon, bien évidemment, je demande pas un triplé à Lamine Yamal, à Pedri, à Nico Williams, et par contre, je leur demande d'avoir cet acte fondateur qui leur permettra d'être vu comme un vainqueur potentiel. Parce que pour moi, c'est une chose qui est très importante. Oui, l'Espagne, en 2021, ils ont fait demi-finale. Mais à côté de ça, ils avaient eu un tableau plutôt flatteur avec la Croatie et la Suisse. Là, l'idée de battre l'Allemagne, organisatrice de la compétition, autre favorite, ça dirait beaucoup de choses dans la perspective d'une potentielle demi-finale, soit face à l'Allemagne, soit face à l'équipe de France, soit face au Portugal. Et surtout, dans la perspective du Mondial 2026, moi, pour moi, l'Espagne serait l'une des top 3 favorites au titre mondial. Voilà pourquoi je pense que gagner ce match contre l'Allemagne, ça enverra un message, parce que ce serait la première victoire éliminatoire d'envergure depuis la finale de l'Euro 2012 face à l'Italie. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Et surtout, ça permettrait à cette nouvelle génération de se dire que sur un match au sommet, parce que la Géorgie, ça reste la Géorgie, sur un match au sommet, tu seras en capacité de répondre présent dans un premier temps et de gagner un match qui fera date dans leur jeune carrière.
Est-ce que ça veut dire qu'à l'inverse, ça remettrait en cause tout ce que tu dis, tout ce que tu attends de cette équipe d'Espagne?
Pour moi, ça remettrait pas en cause, mais moi, je pense que le football de sélection n'attend pas, parce que le football de sélection vide opportunité. Et là, l'Espagne a une grande opportunité, parce que là, on est sur un Euro qu'on a présenté comme homogène. Et là, l'Espagne, avec 4 victoires en 4 matchs, a l'opportunité de faire quelque chose de très grand. Voilà pourquoi je pense que cette nouvelle génération peut marquer les esprits, et ça commence dès vendredi.
À ce point-là,
moi, je rejoins Alton. La seule limite, c'est que c'est une finale avant l'heure, en fait, mais ça reste un quart de finale. Et que si tu passes demain contre l'Allemagne, mais que tu prends un mur en demi-finale contre le Portugal ou le.
Non,
ou
mur, la France, c'est la France.
Ou la France, oui, ou c'est la possible, France. Les deux. Ça peut être, j'espère que ce sera l'équipe de France, mais ça peut être aussi le Portugal.
Ouais, quand tu parles de mur,
malheureusement. Malheureusement, on retiendra quoi? On se dira oui, ils ont battu la. On se dira que l'Espagne aura été demi-finaliste comme elle a pu l'être en 2021. Quand tu sors avant, quand tu vas au bout, on se souvient pas du parcours, mais quand tu sors en demi-finale, finalement, on va te dire bah oui, ok, c'est pas t'as battu l'Allemagne qui elle aussi est une équipe en reconstruction, qui elle aussi n'a pas atteint de. C'est son premier quart de finale l'Allemagne depuis l'Euro 2016, si je dis pas de bêtises. Donc ça reste quand même aussi une équipe en reconstruction. Le choc s'annonce. Moi, j'ai hâte de voir ce match. Je suis très très excité, très hypé par cette rencontre. Je pense que parmi les quatre quarts de finale, c'est de loin
Si je peux me permettre, ouais, c'est égalité.
C'est celui que je pense tout le monde a envie de regarder, parce que c'est deux équipes joueuses, parce que t'as des joueurs exceptionnels des deux côtés, que tout le monde a envie de voir. Moussiala, Wirtz, on espère, il a pas joué le huitième, on espère qu'il sera titulaire demain. Face à l'autre côté, moi, les deux joueurs qui m'ont le plus réjoui, Lamine Yamal et Nico Williams, surtout depuis le début de l'Euro. Ça va être une affiche exceptionnelle, mais encore une fois, tu gagnes demain, tu perds en demi. Qu'est-ce qu'on dit?
Tu sais que Jimmy, je t'attendais justement.
On répète dans l'après, mais là, il va repartir sur son iPhone.
Parce que j'ai un autre exemple.
J'ai un César à côté, mais.
Non, parce que justement, on a un exemple très récent avec l'équipe de France, c'est-à-dire qu'en 2016, ils battent l'Allemagne, ça les a pas empêchés de perdre en finale. Mais pour moi, et d'ailleurs, Guy Stéphane l'a dit à l'occasion de la conférence de presse hier, ça avait préparé 2018. Moi, je pense qu'une victoire d'envergure sur un tournoi international, c'est très important pour une génération.
Surtout que l'Espagne a jamais gagné contre le pays hôte.
Exactement. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, parce que battre l'Allemagne, même si ça te garantit pas d'aller au bout le 14 juillet prochain, ce sera un référentiel très important pour cette nouvelle génération. Manière de dire que, les gars, on est capable de nouveau de remporter ce type de victoire.
T'as raison sur la génération Elton, évidemment, il y a des marqueurs importants. Néanmoins, je pense que malgré tout, l'Espagne, c'est toujours une sélection crédible sur les dernières années. Évidemment, on peut me récolter.
Et tu sais qu'ils ont gagné leur premier match éliminatoire en 90 minutes pour la première fois depuis 2012.
On peut rétorquer évidemment ce qui s'est passé lors de la dernière Coupe du Monde, en effet. Mais je te parle en référentiel jeu. C'est une équipe, pour le coup, on sait reconnaître l'Espagne. Si tu mettais des maillots neutres, on saurait reconnaître l'Espagne. Et je trouve qu'en plus, là, elle a rajouté des ailiers percutants, ce qu'elle n'avait pas sur les dernières saisons. Donc la transformation, elle est validée pour moi. Évidemment qu'elle doit être aussi validée par un... Parce qu'en fait, demain, ça peut être considéré comme un exploit. Tu sors le pays hôte avec une nouvelle génération, on peut rentrer dans un truc assez dingue. Mais je pense pas que la victoire serait... Elle peut être un tournant, mais je veux dire, pour moi, dans mon esprit, ça ne valide pas forcément la mort ou la vie de cette génération.
Ouais, parce que justement, Sofiane, on parle de deux choses différentes. Parce que toi, tu me parles de jeu, moi, je te parle de compétitivité. Parce que en gros, il faut que l'Espagne, pour moi, arrête de développer ce qui est pour moi un espèce de complexe d'infériorité, notamment sur ce rapport compétitif. À savoir que on a le jeu, mais à côté de ça, on finit toujours perdant. Enfin, on finit toujours perdant sur les dernières années.
J'aimerais bien voir perdant depuis 2000.
J'ai quand même rappelé qu'ils avaient gagné la Ligue des Nations, mais par contre, sur les grandes compétitions,
les derniers euros, ils vont aussi.
Ils font demi-finale, ils doivent aller en finale.
Non, mais je vais te donner un exemple, justement, contre l'Italie. Ouais. Moi, ce que je retiens, c'est que l'Espagne est au-dessus de l'Italie.
Mais évidemment,
ça ne les empêche pas de perdre au tir au but.
Mais ça arrive, c'est le lot.
Mais
de
juste sur la notion d'exploit demain, pour après, en avoir discuté avec Polo hier, en Allemagne, tout le monde considère l'Espagne comme favorite. Hein.
C'est-à-dire que même ici, quelque part.
Sur ce qu'on a vu, etc. Il ne faut pas oublier que c'est une Allemagne en reconstruction, que récemment, alors c'était certes la Ligue des Nations, il y a eu un 6-0 qui a beaucoup marqué, Polo me le disait, les Allemands, un 6-0 pour l'Espagne en 2020. Voilà. Ne pas oublier que l'équipe d'Allemagne aussi, elle est jeune et qu'elle a pas beaucoup de références en compétition. C'est presque un miroir. C'est une symétrie.
Je pense que d'un côté,
l'Allemagne a plus à perdre que l'Espagne demain. Et puis, je le pense.
Après,
tu vois,
sur
le fait,
je suis d'accord avec toi, mais c'est une équipe aussi qui a tout à prouver.
Tu parlais de 2008. Attention à ce que ce soit pas plutôt 2006 pour l'Espagne, parce qu'avec en plus Rossellou qui veut envoyer Kroos à la retraite. Vous avez vu passer la décla. Même si d'ailleurs ce soir en conf, ça a un peu déminé évidemment. On a du respect pour eux et eux pour nous. Voilà ce qu'a dit Luis de la Fuente. J'ai pas écouté ni suivi les déclarations qui ont fait polémique. On a un peu.
Typiquement, juste pour faire un comparatif. Imaginons ils sortent demain. Tu fais le comparatif avec la dernière compétition où ils sortent contre le Maroc, ok ?
Ouais. Il y aura une progression, évidemment.
Est-ce que tu penses vraiment que tu n'as pas progressé ? Moi, je pense que tu as progressé malgré tout, parce que tu as rajouté des variables différentes dans ton jeu.
Tu seras même, pour moi, redevenu une équipe de tournoi. Mais là, on parle d'autre chose.
Tu l'as toujours été, Elton, vraiment, sur les dernières années.
Moi, j'insiste sur les dernières années.
On a un référentiel équipe de France avec 3 finales en 4 compétitions. On est des malades mentaux. Mais la vérité, c'est que cette équipe, elle est crédible. Même si je te rejoins.
Elle est crédible jusqu'à quel stade ? C'est ce qui m'intéresse.
Elton, tu fais demi sur le dernier Euro.
Oui, tu fais. On l'a encore
tu sors
évoqué,
dans des conditions complètement dingues.
On l'a encore évoqué, le parcours du dernier Euro. C'est un parcours qui est quand même très difficile pour l'Espagne. Tu t'en sors non,
mais
là parce que c'était une équipe qui était
dernière Coupe du Monde. 2022, c'est 2022, pas bon. 2018, c'est pas bon.
Non, 2018, oui.
Ouais, c'est ça.
En la fait, vraie question.
La question quand même, c'est que moi, j'ai un énorme doute sur la charnière centrale de manière générale. Et je sais pas si demain, quoi qu'il arrive, ça validera cette charnière, s'il passe. Donc on verra.
Ben, c'est un test,
ça sera un test grandeur nature. La vraie question, c'est Wanker qui l'a posé dans le chat. Kofiane, est-ce que Yamal et Williams sont ballon d'or?
C'est pour ça que j'ai ri.
On verra. S'il passe demain, ça peut être un premier pas. Le match sera à 18h, hein, demain, et à vivre là aussi sur écran géant à Suren si vous voulez venir passer ce moment avec nous. Dans un instant, on referme la page Euro et on s'intéresse à l'Olympique de Marseille avec l'avis de Sofiane justement concernant Aubameyang dans cette journée qui a vu certains Marseillais reprendre le chemin de l'entraînement du centre Robert-Louis Dreyfus. Il est 21h31, c'est Génération After avec Sofiane, Elton Mokolo et Jimmy Brown. On se retrouve dans un instant.
RMC 20h-22h Génération After,
Thibaut Giangrande.
On passe la soirée ensemble sur RMC à la radio, sur YouTube, en direct vidéo, la chaîne de l'After. Merci d'être là. Merci pour toute cette bienveillance, tous ces messages. Ça fait plaisir. Merci. Je vois Philippe Callan. Ça fait plaisir. Sofiane Zouaoui là. Elton Mokolo, Jimmy Brown à suivre sur RMC. Le quiz 21h45 by Jérôme Thomas. Mais d'abord, la Ligue 1 est déjà la reprise pour l'OM. Quelques joueurs avaient rendez-vous aujourd'hui à la commanderie pour passer des tests médicaux notamment. Il y avait Harit, Rongier, Verretou. Quelques internationaux sont attendus demain. Le premier entraînement collectif est prévu lundi avec De Zerbi. Et pendant ce temps, ça bosse toujours autant sur les transferts. Koné et Brassier ont signé. Youssef Attal est tout proche de l'OM. Il est libre depuis son départ de Turquie. Les discussions ont bien avancé. Et ce soir, l'avis tranché de Sofiane concerne l'OM et son attaquant.
Est-ce que pour toi, à ce moment-là, il est ballon d'orisable, entre guillemets ballon d'orisable, mais il devient ballon d'orisable. Si on parle d'un objectif ballon d'orisable, il devient ballon d'orisable.
Je déteste ça. C'est
génial. Attends, mais à quel moment tu étais parti dans cet envolé?
C'est ma première émission.
Ah ouais. Mais on est quand même d'accord qu'il a été coupé et il est mort sur le collet.
Non.
Pas du tout.
Non, ça
J'ai bugué.
Ah, c'est incroyable.
On m'a dit d'être impactant, j'ai été impactant.
Ah,
on a retenu un mot.
Aubameyang, Sofiane.
Ouais, c'est un débat très intéressant parce que ça me renvoie un petit peu à, désolé de faire le lien, mais ça me rappelle le débat avec Lacazette il y a quelques semaines à Lyon. Est-ce qu'il faut conserver absolument Pierre-Emerick Aubameyang du côté de l'OM? Et je pense, moi, qu'il ne faut pas le retenir. J'irai pas jusqu'à dire qu'il faut le pousser vers la sortie, mais j'irai, allez, on va rester sur ne doit pas le retenir. L'OM, bon, ils ont entamé leur évolution d'effectifs. On a vu, il y a des départs, il va y avoir des arrivées du côté de l'OM. Et pour Aubameyang, même si les contextes ne sont pas identiques par rapport à Lacazette, encore une fois, je pense que je resterai sur la même idée aussi, pour plusieurs raisons. T'as la situation contractuelle du joueur. C'est un joueur qui a 35 ans, qui a encore 2 ans de contrat. Et si tu veux le vendre, c'est le moment, parce que l'année prochaine, tu seras probablement dans une situation où il voudra attendre la fin de son contrat, et potentiellement à 36 ans, il sera un peu moins performant que cette saison, où il est quand même sur 17 buts en Ligue 1 notamment. Donc c'était une très bonne saison de sa part. Il y a la situation contractuelle aussi. Je sais que de côté de l'Olympique de Marseille, il n'y a pas trop de soucis au niveau d'oseille pour combler les trous si besoin en fin de saison avec Macourt, et ça c'est une grande chance pour eux. Mais on parle d'un joueur qui émarge à 750K par mois dans une saison sans Coupe d'Europe. Je pense que tu as besoin de ramener de la rationalité
rationalité économique dans cet effectif. Et après, j'irai sur la variable collective aussi avec De Zerbi. L'approche du coach, on en parlait hier d'ailleurs avec Johan, notamment Crochet qui en parlait, c'est une approche sans concession d'un point de vue tactique sur les entraînements ou sur les matchs. Donc ça demande énormément d'efforts. Est-ce que Aubameyang qui en fait, bien évidemment, il en a fait cette saison, mais est-ce qu'il est capable de le faire sur toute une saison, même dans un calendrier allégé? Je me pose sincèrement la question. Il y a aussi la logique de De Zerbi sur le terrain. De Zerbi, c'est pas un homme d'homme providentiel. C'est pas un coach d'homme providentiel. Cette saison, Aubameyang, il a été à Marseille. 17 buts en Ligue 1. Le deuxième, je crois, en Ligue 1, il a 3 buts. Bref, il y a un décalage énorme entre le premier et le deuxième.
Pareil en Ligue Europa, d'ailleurs.
Exactement. Si tu regardes du côté de Sassuolo ou du côté de Brighton, tu vois qu'il y a le but, comme dirait mon ami Elton, il est démocratisé, ça vient un petit peu de
dit ça.
Voilà, ça vient un petit peu de partout. Sur le projet de De Zerbi aussi tactiquement, c'est un coach qui valorise énormément plutôt les ailiers. Boga, Berardi à Sassuolo, Mitoma du côté de Brighton notamment, ou Adingra. Donc pour permettre ce danger un petit peu de partout, t'as besoin, à mon avis, si possible, s'il y a une offre, de le sortir pour rééquilibrer économiquement ton effectif, notamment devant, et apporter un petit peu plus de qualité de tous les côtés. Donc, au regard de toutes ces considérations, et même avec l'immense respect que j'ai de Pierre-Emerick Aubameyang, je pense que l'OM ne doit pas le retenir. Et si je poussais un petit peu plus mon avis, je dirais qu'il doit
le vendre.
Bah oui. Le vendre.
Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, ça le réserve, c'est qu'on a connu Sofiane plus tranché. Dans l'absolu, aucun joueur qui veut partir. Tu t'en rappelles, un joueur qui veut partir.
On dirait pas fait sur Griezmann.
C'est vrai,
il a fait une saison extraordinaire.
Mais il y en a qui te disent, t'as un malade mental, il a mis
30 buts. Mais ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien au joueur que c'est, à la saison exceptionnelle qu'il a.
Ça fait manque de respect de dire dégage, tu vois. C'est aussi ce côté.
Non, mais toi, tu mets toujours.
Mais s'il a une offre qui va lui le satisfaire financièrement parce qu'il va pouvoir signer un dernier contrat lucratif en Arabie Saoudite, l'OM va pouvoir tirer une indemnité de transfert et s'y retrouver. On est d'accord qu'on part sur un nouveau projet. Moi, je te rejoins tout à fait sur ce que tu disais par rapport à De Zerbi. Je suis pas certain que ce soit ultra compatible, même s'il s'adaptera toujours, oui, parce que c'est un très grand joueur, Aubameyang. Il y a pas de sujet là-dessus, mais on sent bien que c'est une nouvelle histoire et il y a vu en plus. Les noms qui circulent, il y en a tous les jours de pistes offensives à Marseille. On sent qu'ils ont envie de renouveler considérablement l'effectif.
Ouais, puis au pire, t'as Mbanya.
Ouais, je sais pas moi si je miserais sur Mbanya pour remplacer Aubameyang, mais on voit bien qu'on part sur une nouvelle histoire et auquel cas on pourra dire oui, mais moi je rejoins Sofiane. Merci Aubameyang, mais
faut le régler très vite parce qu'il peut définir aussi la construction de ton effectif. Encore une fois, d'un point de vue économique et organisation de ton attaque. Si t'as Aubameyang, tu peux pas le sortir parce qu'il te prend une charge salariale en plus très importante. Est-ce que tu peux mettre autant sur tes ailiers? Tu vois, c'est aussi la gestion de ton effectif dans une saison où, je le répétais lors d'un dernier after, pour moi c'est la pire saison pour changer de projet sportif, mais l'OM est obligé malheureusement, mais là ça va être difficile. Il y a l'euro qui te mange des pistes éventuellement, ou qui survend des pistes. T'as les droits TV évidemment, même si encore une fois l'OM est un des clubs qui s'en sortira le mieux, mais voilà, malgré tout je pense qu'Aubameyang, que ça doit être géré assez vite et plutôt vers un départ dans mon esprit.
Bah, c'est pour ça que pour moi ça pose question, notamment sur parce que vous avez évoqué la dimension financière et quid de la dimension footballistique, parce que on a évoqué un Olympique de Marseille qui avait une carence en termes de but, fait qui va l'incarner la saison prochaine. Pour moi, c'est une question qui est légitime. Et quand on parle d'Aubameyang, on parle d'un capital but qui n'est pas à négliger. Donc moi, je me dis, sur un marché très complexe, le marché du numéro 9, avec la situation de l'Olympique de Marseille, Jimmy vient de l'évoquer, on est en plein Euro, Copa América, Jeux Olympiques, donc c'est très difficile, entre guillemets, d'avancer sur les pistes. Moi, je me dis, attention,
faut qu'on aille...
Ils t'ont amené où, les 17 buts de Aubameyang?
Attention.
Avec tout le respect, parce que c'est pas le problème, c'est pas Aubameyang.
Non, le problème, c'est pas Aubameyang. Non, mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, notamment au regard de l'effectif marseillais, je n'ai pas de garantie pour que, comme tu l'as dit, le but soit démocratisé.
C'est sûr,
pour moi, un départ d'Aubameyang, tu plonges dans le vide. Et toi, t'as évoqué une situation de l'Olympique de Marseille qui, quand bien même, ils ont pris De Zerbi, on reste sur une situation qui, à l'instant T, est instable. Et pour moi, Aubameyang, au même titre qu'à Balerdi, est un garant est une garantie de
Balerdi,
fiabilité.
Balerdi, oui. Ça n'a rien à voir.
Il y a Walid qui est avec nous au 32-16.
Ouais, Walid, tu peux venir.
Marseillais. Non, mais physiquement, c'est pour le quiz, mais sinon, avant, c'est au téléphone. Salut Walid.
Salut Walid.
Bonsoir.
Salut Walid.
Ça va, Walid?
Ça va, impeccable.
Bon, Aubameyang, tu le gardes ou tu préfères qu'il s'en aille?
Alors moi, honnêtement, Aubameyang, déjà l'année dernière, j'étais pas pour. Franchement, il est venu, il a fait ce qu'il a fait, il nous a apporté ses 17 buts en Ligue 1, plus
je crois 13 buts en Europa League.
Ouais, c'est ça, il a pris 10 buts en
meilleur buteur.
Bien sûr. Voilà. Ses stats sont énormes.
Donc, il a fait son année. Là, il commence à être vieux. Je le vois. D'ailleurs, c'était une erreur de lui donner 3 ans de contrat. Moi, franchement, j'aimerais bien que l'OM aille chercher Mikoutadze. Je pense que c'est faisable.
Tu touches pas, c'est Lyon, ça. Tu touches pas, c'est Lyon.
Non,
c'est Monaco.
Il y avait Monaco aussi. Mais.
Non, je disais formé.
Il a un beau contrat à Mikoutadze. Sur du long terme, il est à 15 millions, je crois, sur, en termes de montant de transfert.
Je pense qu'il est plus. À mon avis, c'est plus maintenant, Walid.
Ouais, peut-être, oui.
C'est Serge Benhamou, il a augmenté les prix. il a augmenté les prix, hein, depuis. Hein.
Oui, mais on a donné.
Qu'est-ce que j'apprends ?
30 millions pour Vitinha qui ne sait pas cadrer un tir. Donc, on peut très bien mettre 20 millions sur Mikoutadze. Mais on peut faire une plus-value sur Mikoutadze.
Mais si tu l'as pas, Walid, Mikoutadze, par exemple, est-ce que tu n'es quand même pas bien content de garder Aubameyang?
Ouais, franchement, s'il n'y a rien, oui, je vais le garder une année supplémentaire, mais je ne sais pas où on va. De toute façon, on a des dirigeants, franchement, ben, je ne comprends pas des fois les choix qu'ils font, je ne comprends pas du tout.
En fait, t'es content d'arriver de Desherby quand même, Walid?
Oui, Desherby, oui, ça va, on verra après.
Pour moi, on gère pas un club avec. Avec seulement l'émotion, c'est-à-dire que évidemment que la saison d'Aubameyang est exceptionnelle, mais ça c'est facile de faire ce constat, il suffit de regarder les matchs et de lire les stats. Après, le plus dur dans un club, c'est d'anticiper. Est-ce que tu penses que t'es dans une meilleure situation en attendant un an, avec de l'incertitude sur la forme physique d'Aubameyang, avec un an l'année prochaine, est-ce qu'il sera toujours convoité, le salaire aussi qui sera chargé pendant un an, est-ce que cette certitude-là, tu la préfères, ou est-ce que tu préfères aujourd'hui prendre les devants et anticiper tout simplement? Donc c'est ça la question. Moi, c'est pas un manque de respect sur Aubameyang ou remettre en cause sa saison, mais c'est redéfinir la gestion sportive de cette équipe en cours, avec notamment la gestion devant des attaquants qui a été catastrophique globalement, parce que les ailiers ont été catastrophiques.
Et toutes les Info Mercato à retrouver sur rmcsport.fr. Merci beaucoup Walid, à bientôt sur RMC.
Salut Walid.
Merci à vous.
Ciao. Salut Walid.
Bye bye. 21h43, Walid Acherchour arrive à 22h accompagné de Kevin Diaz et Nico Villas pour l'after. Mais d'ici là, c'est le quiz de l'after by Jérôme
Walid
Thomas.
Pour le quiz, non?
Je réfléchis, je donne ma réponse dans un instant. C'est Génération After avec Jimmy Brown, Sophie Nzouaoui et Elton Mokolo. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Thibaut Giangrande.
Merci d'avoir choisi RMC une fois de plus, Génération After, avec Jimmy Brown, Sophie Nzouaoui, Elton Mokolo. L'After arrive dans un quart d'heure, Nico Villas, Walid Acherchour et Kevin Diaz. Mais d'abord, place au quiz. Tiens, juste avant le quiz, un petit point foot sur notre équipe de France Olympique qui débute sa prépa pour les JO à Bayonne face au Paraguay. Paul Lafitte.
Ouais, Thibaut, difficile pour l'équipe de Thierry Henry qui est menée, on l'appelle, 1-0. Un but rapidement marqué par Juan Salcedo dès la troisième sur une perte de balle de Luqueba. Mais c'est vrai que les Bleus ont eu une belle occasion. Finalement, Matsima a trouvé quasiment les filets, mais le ballon a vraiment flirté avec les montants du gardien paraguayen. Et depuis, les Bleus qui incident dans la surface de réparation, mais pas mal de maladresse dans la finition. Donc ce score de 1-0, un petit quart d'heure encore à jouer avant la fin de cette première mi-temps.
Merci beaucoup Paul, à tout à l'heure, 21h47, place au quiz.
RMC, le quiz de l'after.
Salut Jérôme Thomas.
Salut Thibaut.
Ça va?
Ça va, très bien, je te remercie.
Prêt pour ton quiz?
Ouais. Il est prêt.
Yannick et Mickaël sont avec nous et vont participer à ce quiz. Salut les gars.
Bonsoir les amis.
Hola viva.
Qui c'est qui vient de faire ce hola viva?
Ouais, c'est Yannick, parce que France-Portugal, Yannick Ovilas qui doit écouter avant
ça tombe bien, c'est le thème du quiz, France-Portugal.
Et il y a Walid Acherchour qui nous a rejoint, salut Walid.
Salut les gars.
Alors il y aura
Walid,
une équipe.
Je te kiffe Walid.
Merci, c'est gentil.
C'est qui ça encore?
Salut Walid, moi
Yannick,
je te kiffe.
Yannick, toujours.
Yannick,
on se kiffe tous.
Non, pas tous. Il y aura une équipe Jimmy Brown, Sofiane, contre une équipe Walid Elton.
Allez.
Yannick.
Bien, Walid.
Yannick, est-ce que tu préfères les zèbres ou les saumons?
Vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Je vais prendre Walid.
Ouais.
Non. Elle est belle.
Tu préfères les zèbres ou les saumons?
Les zèbres ou les saumons?
Il est chaud sur moi.
Je sais pas si. Ah oui, ok. C'est, j'ai compris, parce que Walid qui mange que du saumon, c'est ça, Yannick?
Non, okay. Il y avait une ref. Merci Yannick, t'es un
bon. Alors Yannick, t'es avec Walid et Elton.
Allez, cool.
Et Mickaël, tu es avec Sofiane et Jimmy.
On va les défoncer.
Ça marche.
C'est parti, première question.
Premier coup, premier jingle. D'ailleurs, il y en aura qu'un. C'est parti. Le quiz des intelligents.
Un minimum de jugeotes, ça s'achetait au supermarché, une intelligence. Je pense que tout le monde en achèterait une.
On y va uniquement des questions sur France-Portugal. France-Portugal demain, évidemment. Donc, thème unique. Quiz France-Portugal. Beaucoup de questions sur le Portugal. On y va. Première question, question de rapidité. Tout le monde joue. 211 sélections pour Cristiano Ronaldo. Comme vous le savez. Qui est le deuxième Portugal plus capé?
Pepe.
Non.
Eusebio.
Non.
Figo.
Non.
Ricardo.
Non.
Il a répondu il n'y a pas longtemps.
Moutinho.
Ah là là.
Bravo.
Un point pour l'équipe Delton, Walid et Yannick.
Il n'en voit plus.
Question de rapidité toujours. En 2019, on croyait l'avoir retrouvé, mais non. Comment s'appelait l'homme qui avait été confondu avec Dupont de Ligonnès?
Ah, Olivier Ménard.
Non.
Joao. Bonne réponse.
Vous êtes des fous, comment vous rappelez du nom de ce gars?
C'est l'événement du 21e siècle. Réveille-toi.
On est d'accord, exactement. Rapidité. Trouvez-moi ce milieu de terrain portugais, très facile. Dans les années 90-2000, il n'avait pas un masque pour protéger son nez, il avait un écarteur de narine.
Jorge Costa.
Non.
Milieu de terrain. Pardon?
Dimas.
Petit?
Non.
Cotinha. Il a joué au PSG.
Sapinto.
Non. Ah, c'est pas loin de Sapinto.
João Pinto.
Il a fait la passe décisive.
Fort. 2-1.
Allez pour toi, Nico.
Pour l'équipe.
Ah, j'ai fait.
Jimmy, Sofiane et Mickaël.
Bravo, Jimmy.
On continue. Sofiane, une question de rapidité avec tout le monde qui peut répondre. Lors de la finale de l'Euro 2016 remportée par le Portugal face à la France, qui portait le numéro 10 portugais?
João Mario.
On enlève le point.
Tu dois faire un virage avec le nom.
Attention, question, donc sans les auditeurs. Trop facile sinon.
Ok, Yannick et Mickaël, à tout de suite.
Chacun votre tour, les deux équipes, vous pouvez vous concerter, vous avez quelques secondes. Vous devez me donner un joueur ayant inscrit au moins 20 buts avec le Portugal.
Ok.
Concertez-vous.
Juste, petit indice, Walid. Il y en a 12 au total. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 12.
Une feuille inscrite.
Non, on le fait comme ça.
On le fait comme ça.
Ronaldo chez nous.
Ronaldo, c'est bon.
Cristiano Ronaldo.
130 buts. Pauleta, c'est bon. Vous m'avez cité les deux premiers. Pauleta, 47.
Je vais te dire Nani.
Nani, c'est bon.
C'est 20. Nuno Gomes, il rentre pas.
Nuno Gomes, il rentre. Au moins 30.
Évidemment qu'il rentre.
29. Il rentre. Nuno Gomes.
29.
C'est Nuno Gomes, par contre.
C'est Nuno.
Postilla chez nous, Postilla.
Elder Postilla.
Ça rentre pas.
C'est bon. Ça rentre largement.
Bah oui.
Eusebio, il a bien mis 20 buts avec le Portugal, ouais. Eusebio.
Ah oui. Eusebio, c'est excellent.
Eusebio.
Troisième.
Luis Figo.
Quatrième, Luis Figo.
Bien, rien.
32 buts. Attention, vous précipitez pas parce qu'il en reste pas beaucoup. Il en reste 1, 2, 3. Il en reste 4.
Allez, c'est Jimmy et Sofiane.
Il en met, il fait une longue carrière.
Allez-y.
Rui Costa.
C'est bon.
Oui.
Almeida, c'est pas bon.
Non.
Donc on gagne.
Qui a commencé?
C'est nous.
Pour valider, il faut en courir.
João Pinto.
Pas bon.
C'est bon.
Et ça fait 3-2 dans ce quiz de l'after pour l'équipe Jimmy, Sofiane, Mickaël. 3-2 pour l'équipe Jimmy, Sofiane, Mickaël.
C'était la folie, ça vaut qu'un point.
Ça vaut un point.
Ça vaut un point et tu la fermes.
Et les auditeurs, vous êtes de retour les gars, le
32-16. Guy Joao, ça vaut pareil que ça.
Ouais, Guy Joao, ça vaut pareil que Rugrand.
Vous avez oublié l'angle des
affaires
quand même.
Non, il a 46 buts, il a dit.
Micro-sieste apparemment, Yannick.
Non, gorge.
On repart sur une question de rapidité. Quel est le nom de famille le plus commun au Portugal?
Costa.
Non.
Almeida.
Sanchez.
Il y en a un parmi les titulaires
Gomez.
Du Portugal.
Gomez.
Non.
Sanchez.
Non.
Fernandez.
Costa. Silva.
Non. Silva.
Pedra.
Yannick. Qui a dit
Yannick. Tu l'en mets dedans, Yannick.
Trois partout. Duel Walid, ouais. Jimmy.
Allez.
Quel joueur espagnol de Gérone aurait presque pu jouer pour le Portugal?
Partout.
Portout.
Oh, bravo. 4-3.
Très belle réactivité. Non complet. Christian Portugues Manzanera.
Jimmy, t'as été énorme.
Duel Elton Sofiane. Quel joueur de Newcastle porte le nom d'une ville portugaise? C'est un international brésilien.
Guimaraes.
Et ça fait 4 partout entre les deux équipes.
Il est beau,
bravo,
il est beau.
Très très beau quiz.
Duel Yannick Mickaël.
Vous allez, allez,
c'est maintenant qu'on peut aller. Allez,
faut aller chercher ce Bombers, Mickaël.
Écoutez, les gars, lors de la finale de l'Euro 2016, France-Portugal, Coman et Martial sont entrés en cours de jeu. Qui était le troisième côté bleu?
C'est facile. C'est facile. C'est facile.
C'est Gignac. C'est bon.
Quel est
Gignac? C'est bon.
Yannick.
C'est moi. Yannick.
Non, c'est moi.
Non, c'est Mickaël.
C'est moi.
C'est Yannick.
Yannick.
C'est Yannick.
Le poteau,
c'est Yannick. Ouais, c'est Yannick. Je vais dire, c'est Yannick. Alors c'est Yannick. Non, c'est bien d'accord. Moi, je propose pour annuler parce que je crois qu'il y a une simultanée.
Ah, moi, je dis simultanée.
Il y a une simultanée.
Non, Yannick.
Non, il y en a un qui l'a dit avant, mais Yannick. Le problème, c'est que j'ai pas le truc là. On voit pas là. Ouais.
Ouais, c'est bon.
Point suspens. Point suspens.
Attends, c'est volé.
Il a dit en même temps.
Non, il pas dit en même temps.
On continue. Éder.
Je vais pas.
Tout le monde.
Alors attends, juste par contre, Yannick, Mickaël, si vous répondez, vous dites votre prénom avant, ok, les gars?
Ok, ça marche.
Allez, vas-y.
Tout le monde joue. Éder fut le bourreau des Bleus en 2016. Après Lille, où va-t-il?
Locomotive Moscou.
Loco. Pardon.
C'est Locomotive Moscou.
Le point pour Jimmy.
Question de rapidité, tout le monde joue. Il porte le nom d'une ville portugaise. Qui est cet ancien joueur du PSG et ancien entraîneur de l'OM?
Braga, appelle Braga.
Eh oui, Braga.
C'est Moscou, ce qu'on leur fait. Ce qu'on leur fait, ils sont morts.
Les questions intelligentes, c'est Elton à chaque fois. Duel Elton Jimmy. Je veux le premier qui arrive à me dire bonjour en portugais.
Bonjour.
C'est simultané.
C'est pas simultané.
Elton juste devant. Juste devant. Elton juste devant.
Il démarre avant, les gars.
C'est horrible. Moi j'aurais dit simultané, mais après.
Duel Sofiane Walid. Je vous fais le parcours d'un joueur. Ouais, vous devez en club, vous devez donner le joueur. Quand Lorient Dortmund Bayern.
Guerrero. C'est nous. Allez, enchaîne.
Il n'y a pas de simultané à chaque fois. Nous, c'est nous. On arrive à pleine barre. C'est pas bon, mais.
Tout le monde joue. Ouais. Question, avantage Walid. Lors de France-Portugal, demi-finale de l'Euro 2000, qui porte le numéro 10
portugais? Rui Costa.
Rui Costa.
Non.
Ah non.
Le 10 portugais. Rui Costa, pardon.
C'est bon, Rui Costa.
C'est Jimmy. 7-6. Un point d'avance pour l'équipe Walid.
Il faut tenir.
Et Yannick.
Lors de ce même match, France-Portugal, demi de l'Euro 2000.
Avec Xavier.
Qui porte le 4?
Abel Xavier.
Ouais, mais non, parce que tu m'as donné la réponse avant la question.
Mais non, mais qui porte le Xavier? C'est quoi?
Non, il a trouvé.
Tu rentres pas dans la boulangerie si ça fait ce qu'on fait. Désolé.
Qu'est-ce qu'on fait? Titi, Thibaut, c'est toi qui.
Non, mais c'était la réponse à ta question.
C'était la réponse.
Ah, bah oui, merci.
Bientôt Walid va répondre à la question avant qu'elle soit posée.
C'est 8-6
pour l'équipe
Walid.
Question de rapidité. Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur du championnat d'Arabie Saoudite. Et qui est le meilleur? Quel est le français meilleur buteur actuellement en Arabie Saoudite?
Moussa Dembélé.
Merci.
9-6, c'est fini.
Là, il n'y a plus de simultané.
C'est fini.
C'est fini. Bravo. Victoire de Walid Elton. Et c'est Yannick qui remporte le Bombers.
Bravo, les gars.
Merci, Yannick.
Félicitations, Yannick. Attention.
Gagnez sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot. Et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com.
Le Bombers pour Yannick et Mickaël, tu repars quand même avec une casquette Shot et le scratch after foot qui va avec. Merci Jérôme pour le quiz, merci Elton, merci Jimmy, merci Sofiane, ciao les gars, bonne soirée, merci à vous d'avoir été là. Dans un instant, Walid Acherchour reste, Nico Villas, Kevin Diaz, ce sera en simultané à la radio sur RMC et sur YouTube, bien sûr. À tout de suite sur RMC.